Dans le tempo, c'est la rentrée, épisode 29, et on y va. Les amis, c'est le grand retour de DLT. Alors, avec une table exceptionnelle, épisode spécial, rentrée.
Incroyable.
Surtout, j'ai même pas d'Az à côté de moi. C'est bizarre.
Non, ça change.
Te voir en face comme ça.
Et on encadre le guest.
C'est vrai. Et en plus, on a plein de guests. Alors, je vous explique. Pour la rentrée, on s'est dit, on va faire un épisode spécial Team Podcast. Et parce que, y a plein de gens autour de cette émission. Il y a plein de gens qui nous aident à réaliser cette émission et on voulait les recevoir et discuter de musique avec eux parce que c'est aussi des passionnés de musique. Bon alors Daz, vous le connaissez, co-animateur évidemment de DLT.
Oui.
Mais vous connaissez un petit peu moins Sam. Salut Sam.
Ça va.
Ben oui, ça va très bien. Et on a François. Alors François qui est en vidéo un peu plus loin.
Bonjour. Bonjour. Et vous ?
Mais oui. Alors François, t'as un petit souci.
On parle pas de la cave dans laquelle tu es.
Oui. Le sex dungeon, apparaît-il. Je sais pas à quoi ça
non,
sert.
Ça, c'est mon autre activité. Je tiens un donjon. Non, j'ai une laryngite, donc j'aurais cette voix. Ça, c'est mon pic. C'est le meilleur que vous pouvez avoir, c'est ça.
Eh ben écoute, on va faire avec.
Désolé,
on fera avec, il n'y a pas de problème.
Et pour tous les gens qui veulent entendre ta belle voix, ta belle vraie voix entre guillemets, ils peuvent regarder tes vidéos qui sont sur Monte le son aussi, sur la chaîne dans laquelle apparaît ce podcast. Donc n'hésitez pas, Flashback, c'est très très bien. Mais on reparlera de tes activités, François. Tu es un homme avec de multiples activités, tout comme Sam d'ailleurs, tout comme Daz aussi. Et je pense que ça va être intéressant de discuter de musique. Et ce que je vous propose, peut-être pour commencer justement, c'est... qu'est-ce que vous faites dans ce podcast? Qui vous êtes? On vous connaît moins. Alors Sam en particulier, je pense que c'est la première fois qu'on te voit sur la chaîne tout simplement. François, il est déjà apparu quelques fois. Bon, Daz.
Bon, ben moi, voilà.
Qu'est-ce que tu fais toi dans ce podcast?
Bon, moi, je m'assois et je discute.
C'est pas mal comme
Daz. Ouais,
comme
j'aime bien, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. Je suis ton homme de l'ombre, mais en pleine lumière. Voilà.
Putain, c'est poétique ce podcast.
Ouais,
ça démarre bien.
Il va y avoir de la métaphore. Il va y avoir de la métaphore. J'ai rechargé les batteries pendant l'été, donc voilà. Oui, non, moi, que dire. Plutôt, laissons la parole à ça, mais moi, j'interviendrai.
Bon, en tout cas, oui, Daz, ça fait quoi? Ça fait 4 épisodes à peu près qu'on a fait ensemble.
4-5, ouais. Et puis voilà, la musique, les podcasts, le streaming.
Tu fais plein de trucs à côté.
Ouais.
Il va falloir qu'on en parle, notamment lié à la musique.
Il y a la musique.
Et on va aussi découvrir un peu comment t'as été amené à travailler peut-être un peu autour de la musique aussi,
oui,
cette passion,
oui.
Comment elle est née, etc.
En strict indep enthousiaste, attention. Hein,
Il n'y a pas de
plan financier.
Non, mais c'est ce qu'on aime, c'est la passion,
oui.
Quoi.
Ouais.
C'est pas pour... C'est
complètement
pour partager le truc de la musique. Quoi.
Complètement.
Donc, j'ai hâte de découvrir aussi.
Mais oui.
D'en apprendre plus.
Mais Sam, c'est parfait que tu parles, c'est parfait. Qui es-tu? Que fais-tu? Pourquoi es-tu avec nous aujourd'hui?
Bonne question, je crois que je me suis trompé de siège.
Normalement, t'es un peu derrière, quoi.
Exactement, normalement, je suis de l'autre côté. Alors, je sais pas comment on voit la caméra, mais.
Si, on peut faire peut-être un coucou. Et en plus, il y a Flavien aussi, qu'on doit voir peut-être. Il y a Jean-Michel aussi, qui est avec nous. Est-ce qu'on les voit un peu derrière? Peut-être. Mais oui, normalement, toi, t'es plutôt derrière, quoi.
Exactement, en fait, moi, je suis producteur de La Bouclette TV.
Ouais.
En fait, je travaille. Essentiellement ici, tous les jours.
Puisque là, on est chez La Bouclette, effectivement.
Exactement, bienvenue à tous. Voilà. Et en fait, on a rencontré Salman il y a quoi maintenant? Parce que je ne me rends pas compte, ça fait 6 mois, un petit peu plus.
Ouais, plus même, je crois un tout petit peu plus. Ouais, un truc comme ça.
Je suis un peu perdu sur les dates, mais voilà.
On a fait presque 10 épisodes ensemble, je pense. Quasiment 9, ouais, là c'est toi le 9e,
c'est ça? Je crois que c'est le 10e.
10e, là.
Alors, non, c'est la 10e fois qu'on travaille ensemble.
Ah, voilà. Très bien.
Parce qu'on parle de travail.
Oui.
Parle
oui,
de travail.
C'est du travail, effectivement, ce podcast.
C'est
on dirait pas, mais c'est vrai du taf.
Tout à fait. Et en gros, voilà, moi, je suis derrière les manettes pour, en l'occurrence, produire avec vous cette émission, pour assurer la réalisation de cette émission.
Ouais.
Ça me fait vraiment très, très plaisir de le faire. Et je suis d'ailleurs ravi de me retrouver de ce côté.
Bah, écoute.
Merci, Salman.
Bah, avec plaisir. Attends. C'est normal de tous ces gens qui nous aident à faire cette émission, qu'on les voit aussi. Et surtout parce qu'ils ont des choses à dire. Et... on a une dernière personne qui est François. François, a.k.a. Memorex. Allez chercher sur Spotify Memorex. Et il n'aime pas quand même. Et qui es-tu? Que fais-tu, toi, François, dans DLT?
François Bretéchet, Capricorne, ascendant Lion. Qu'est-ce que je fais?
Quel type de caractère
c'est
le Capricorne, ascendant Lion?
Je souffle souvent le chaud et le froid. Non, qu'est-ce que je fais sur DLT? Je fais globalement un peu de post-prod, ouais. Donc du montage vidéo et du mixage audio.
Ok.
Et un petit peu de, d'habillage aussi,
ouais.
Du graphisme. Voilà.
Bah, t'es le monteur de tous les épisodes en fait, concrètement.
Absolument.
Oui, c'est voilà. Ça. Absolument. Ouais,
tout simplement. Bah, si les gens peuvent voir l'épisode, c'est grâce à toi quand même.
Et s'ils peuvent l'écouter.
Ah oui.
Dans de bonnes conditions. Enfin, maintenant que on passe par la bouclette, c'est mieux. Mais avant, chacun était un peu à distance. Et c'était un challenge d'avoir une qualité audio.
C'était assez fou.
Convenable.
Ouais. C'est vrai que parlons-en rapidement. Mais là, c'est le 29e épisode de DLT, bientôt 30. Ça fait un peu plus de 2 ans qu'on fait l'émission maintenant. Au début, c'était à distance. Donc, on était tous chacun chez nous avec des micros, des caméras, etc. Y compris l'invité, ce qui était d'ailleurs une galère.
Ouais, j'imagine.
L'organisation était plus simple parce que tu n'avais pas besoin de faire venir les gens comme on le fait maintenant. Mais par contre, il fallait s'assurer que le setup fonctionne, que tout enregistre bien, etc. Et on s'est retrouvé plusieurs fois à devoir rattraper des petites galères. C'était assez folklorique. Et il y a eu cette première étape. Et au début, c'était moi qui montais la vidéo. C'était Chronomusic, donc, qui était le co-animateur à l'époque, qui faisait le son. Et ensuite, c'est François qui nous a rejoint pour faire le montage vidéo et le son. Et là, on était encore à distance. Et c'est vrai que c'était un sacré taf. Fallait nettoyer régulièrement et tout. Et depuis la bouclette, on a clairement step up. On a clairement step up d'avoir venu technique. C'est quand même très, très appréciable.
Bah, merci, ça fait plaisir. Ravi. Big up aussi à l'équipe qui travaille
absolument
sur ce projet. Big up à toute l'équipe d'ailleurs de la bouclette.
Bien sûr.
Ceux qui connaissent ce projet.
Et on peut citer en particulier, parce que c'est souvent ceux qui sont là pour l'émission, Flavien, Ellie.
Exactement.
C'est vrai que bon, il y a Jean-Michel aujourd'hui aussi qu'on remercie énormément.
Ouais.
Mais voilà, bonne team. Il nous fera un petit coucou à la fin.
Avec grand plaisir.
Dans la caméra.
Et Ellie n'est pas là ce soir parce que
malheureusement.
Il est chez la concurrence.
On dit pas les noms. On dit pas les noms.
Non.
Les gars, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on se fasse un petit point. On sait maintenant ce que vous faites dans DLT. Sur les parcours, rapidement, on va pas trop faire ça en longueur, mais j'aime bien cette idée, on l'a déjà fait dans d'autres épisodes, quand on recevait la team Monte le son, quand je faisais aussi ça avec Chrono tout, juste à deux, l'idée un peu de dire, bah voilà, on peut avoir des métiers différents, et reconnecter ça mine de rien à la musique, qui est une passion, parce que là c'est la passion de tout le monde clairement autour de cette table, la musique, et j'aime bien, voilà, par l'exemple, parler des différentes expériences et qui ont amené à travailler dans la musique parce que ça peut inspirer des gens, parce que c'est toujours intéressant les parcours humains, etc. Peut-être que Daz, tu veux commencer, comment... Parce que
toi, écoute,
en dehors de DLT, t'as une émission quand même clairement musicale, parce que tu fais d'autres choses aussi.
Ouais, mais... j'en ai deux.
Ouais.
Moi, je suis un buté de hip-hop depuis que le hip-hop est audible,
ouais.
Donc depuis 1992 à peu près.
Ouais.
Avant c'était un peu flingué, on va pas se mentir. Non, c'était flingué.
On a déjà parlé, moi j'aime bien les vieux flows.
Ah non, j'ai essayé de réécouter du Public Enemy, j'avais envie de m'arracher les oreilles. C'est horrible,
c'est
horrible.
Trop bien.
Et en fait, oui, vu que j'écoute ça, ça va faire plus 30 ans, tu vois. Donc j'avais des trucs à dire et je me sentais pas spécialement représenté par les émissions rap classiques, ni par le mouvement hip-hop en général. C'est-à-dire que moi, il faut comprendre que donc j'écoute principalement du rap West Coast. C'est comme ça que je suis venu à la musique, justement parce que c'était de la musique. Par rapport à ce qui se faisait à New York à l'époque.
Hot take commence déjà.
Ça y est, on commence à... Bah, bah, bah. Évidemment, j'aime le Wu-Tang et Mobb Deep, il n'y a pas de problème. Donc je suis venu au rap par la côte ouest, plus mélodieuse et plus musicale, tout simplement, avec des flows plus doux et tout. En rap français, je ne supporte pas l'école du 93 NTM, tous ces trucs-là.
Okay. Tu vois,
je déteste ça.
Ça a été une claque pour tout le monde.
Et je reconnais complètement l'importance qu'ils ont eue dans le rap en France. Pas de problème.
Indéniable de toute façon.
Et ils méritent leur carrière, etc. Par contre, moi, je pouvais pas écouter ça.
Okay.
Et donc, le problème, c'est qu'à un moment donné, en France, si t'écoutais pas NTM, t'aimais pas le rap. Tu vois. Et donc, forcément, tous les trucs qu'on suivit, toutes les publications qui parlaient hip-hop, je me retrouvais pas dedans, en fait, tu vois. Donc, quand j'ai eu l'opportunité de faire du son, moi, j'en ai fait aussi de mon côté. C'était, paradoxalement, avec un des cousins de Joey Starr, à Saint-Denis, big up à lui. Mais du coup, j'ai jamais été dans la mouvance, les mecs qui font du rap de Brooklyn sur scène, tu vois. J'ai jamais compris, en fait, pourquoi. C'est pour ça que j'étais plus école Mafia Quin Free, 9-4, okay. Time Bomb.
Mais qui arrive comme après. C'est des
générations. Oui. Ouais, enfin, 95.
Ouais.
Tu vois, il y a quelqu'un qui souffle fort, là, dans le...
un petit coup dans ton... Bah voilà, en fait, comment ça s'opère, justement, quand nous avons un petit problème technique? Nous avons un problème technique, il y a quelqu'un qui respire trop fort.
Parce que j'ai mal parlé de NTM, du coup, Jean-Michel, il a soufflé en rire. Non, et donc, effectivement, bon, moi, j'ai fait un peu de son de mon côté, machin, en dilettante, des mixtapes ici et là, des trucs comme ça. Et puis... on a commencé à faire du podcast avec des amis qui sont devenus des associés parce qu'on a monté une structure qui s'appelle Qualité. Et à un moment donné, donc on avait une émission phare qui traitait du numérique. Et moi, j'ai dit à un moment donné, j'aimerais bien parler hip-hop. Et on m'a dit, bah vas-y.
Parce que c'était pas du tout lié à la musique ce que vous faisiez jusque-là.
Non, pas du tout. Non. Et en fait, arrive le moment où en fait, tu sais, tu montes une structure autour d'un programme phare qui est un peu la locomotive du truc. Et tu te rends compte que dans cette locomotive, souvent, t'as envie de mettre plein de trucs. Ouais. Mais que du coup, ça part dans tous les sens et tu dis, hey, on va garder le podcast initial dans son état actuel et puis on va faire des side projects. Mmh. Et donc, on a monté une émission qui s'appelle Six and Daz avec mon ami Six, donc Francis de son état civil, qui était un des fondateurs d'un label qui s'appelait Get Large et qui produisait en fait des instrus pour des rappeurs, notamment new-yorkais.
Okay.
Donc le mec en fait c'est Six, c'est une mine d'informations parce qu'il a vécu à New York, il est allé en studio avec les amis des amis des amis de Mobb Deep, donc des mecs complètement cintrés qui viennent avec un gilet pare-balles, etc. Donc on a plein d'anecdotes. Mmh. Et en fait dans Six and Daz on prend la musique, on prend un artiste et puis on déroule en fait, le but pour moi c'est pas de parler aux experts. Parce que je pars du principe que les mecs qui se considèrent comme experts du rap, de toute façon, ils écoutent rien à part eux-mêmes, tu vois. Mais je sais que dans le domaine du podcast, etc., on est écouté par des gens qui sont très curieux, qui s'intéressent à plein de choses, et beaucoup de gens qui ont loupé le virage du hip-hop dans les années 90 et qui se disent « Putain, j'aimerais bien y venir tranquillement. Mmh. » Et donc, nous, on est là pour justement tendre la main à ces mecs-là, en disant « Ok, tu connais pas 50, tu connais pas Memphis Bleek. » Bon, personne connaît Memphis Bleek à part Six, mais bon, voilà. « Tu connais pas MCA, tout ce genre de... » Bah, tu sais quoi, vas-y, on va discuter. Donc, on déroule les carrières. Et
on est rétrospective.
Ouais. Aussi bien... et c'est ça qui est intéressant parce que d'avoir Six dans l'émission, c'est que 50 Cent, par exemple, on le connaît en France, évidemment. Mm-hmm. Ce qu'on connaît moins, c'est sa partie business. Et en fait, tu te rends compte qu'en déroulant le truc, le mec, il a fait des trucs de fou. En fait, c'est un mec incontournable. Il a eu des idées qui étaient limite avant-gardistes au moment où il les a mis en place. Et c'est des choses que les gens ne savent pas forcément complètement. Et donc, en fait, voilà, on déroule l'émission pendant une heure et demie, deux heures. On parle comme ça de l'artiste, on choisit des morceaux, on parle des albums successifs, on choisit des morceaux qui, pour nous, sont emblématiques. Et puis, on retrace comme ça la carrière. Et on a avec nous un mec qui s'appelle Mog, qui travaille en tant que consultant musical, mais il faut pas trop dire ce qu'il fait.
Okay.
Mais en gros, c'est le mec qui a potentiellement des morceaux de Kanye West que même Kanye West n'est pas au courant qu'il les a.
Tu D'accord. Vois.
Donc on a fait une émission de 3 heures sur Kanye West avec des trucs, mais tu les entendras nulle part. Je me suis dit même à un moment donné, le FBI va peut-être venir nous soulever. Parce que vraiment, c'était même plus des inédits, tu vois. À ce niveau-là, c'est des mémos d'iPhone qu'on a, de l'iPhone de Kanye West, enfin voilà. Et donc, Mog rajoute justement la couche industrie, un peu insider, tu vois, où il est vraiment en coulisses et il nous trouve des trucs que tu peux jamais entendre ailleurs. Et puis voilà, donc on a déroulé du T.I., Busta Rhymes, donc Kanye, Jay-Z, etc. Et puis parallèlement à ça, j'ai une émission qui s'appelle Californie. Où je retrace, en fait, comme si je faisais un ride en voiture depuis Los Angeles. Mmh. Là, on est parti jusqu'à San Francisco, mais on passe par South Central, Compton, Long Beach, et à chaque fois, en fait, je fais un focus sur des artistes du coin, puisque le rap est très territorialisé et que
c'est intéressant cette approche.
Ouais, le son de Watts, c'est pas le même que Compton, et Compton, c'est pas le même que Long Beach, et Long Beach, ça a encore moins à voir avec Oakland, San Francisco, Vallejo, etc. Et voilà, donc c'est deux émissions où clairement je me fais kiffer.
Très intéressant. On reviendra peut-être après sur l'aspect aussi faire de la musique, mais ouais. On va peut-être faire un petit tour de table, continuer. François, par exemple, toi, comment t'as été amené professionnellement à bosser autour de la musique? Toi, il y a un prisme particulier, parce qu'à la base, c'est pas la musique en tant que telle ton métier, mais très vite, quand même, t'as réussi à faire des choses autour de la musique, non?
Ouais, en fait, j'ai un parcours un peu... pas chaotique, mais j'ai eu mon bac assez jeune, je savais pas quoi faire de ma vie. J'ai pu faire une école de cinéma, parce que j'aimais bien mater des films, Et j'aimais, il y a un truc que j'aime par-dessus tout, c'est les clips. Et j'avais envie de faire du clip, voilà. C'était il y a 15 ans, hein, donc à l'époque c'était cool les clips. Donc j'ai étudié le cinéma et après je me suis retrouvé à faire de la prod, donc plutôt de la gestion, quoi, genre. Des ressources humaines, quoi, mais...
C'est-à-dire concrètement, t'as une boîte qui doit produire un film, et donc il y a plein de gens forcément derrière, et toi, c'était quoi? C'était une espèce de coordination?
Ouais, c'est ça, entre, en gros, les gens qui filent la thune, ou les marques, et les réalisateurs, quoi. Okay. Mais ça, au début, j'ai fait de l'arbin, quoi, donc, ce qu'on appelle... Je fais de la régie, parce que moi, je connaissais personne dans ce milieu, donc... J'ai commencé à faire des stages en régie sur des tournages où je faisais des courses, je faisais le chauffeur, etc. Puis en gros c'est de la logistique, quoi. Puis j'étais pas trop con, donc on m'a proposé de faire des plannings et de gérer des budgets. Et puis en gros je rendais service, quoi. Puis après donc j'ai fait ça pour deux.
C'est un travail remarquable aussi, hein, dans une bonne production, un bon
et essentiel.
On va peut-être en parler, mais bon, c'est pas. Je sais pas si j'étais spécialement compétent, mais disons que c'est un job assez ingrat, quoi. Mais je l'ai fait. Donc je l'ai fait pour de la fiction, pour de la pub et du clip. Mais du clip produit, quoi. Okay. Pas du clip amateur. Voilà. Et à côté de ça, ben en fait, je me suis formé. Tout seul, en regardant des tutos pour faire du montage, des trucs comme ça, un peu de d'effets spéciaux. Puis j'ai appris à faire ça chez moi le soir. Je l'ai fait pour des potes, et puis après pour d'autres potes qui faisaient de la zik, et puis je me suis retrouvé à faire des clips pour eux, à filmer des concerts. Voilà, puis ça m'a plu. Au bout d'un moment, j'ai un peu saturé de la pub et je me suis mis à mon compte. Pendant la pandémie, enfin pendant le confinement, quoi. Et voilà, et depuis, bah, je fais essentiellement du montage et du motion design.
Ok.
Mais pas forcément autour de la musique. Donc je travaille pour monte le son. J'ai mon propre format maintenant.
Absolument.
Qui est chouette.
Oui.
Mais à côté de ça, je fais aussi un peu des trucs genre des vidéos LinkedIn pour des entreprises qui vendent. Des solutions comptables, tu vois. des trucs pas passionnants, mais
super, c'est super SAP, Sage, c'est génial, j'adore.
Ouais, voilà, c'est
ce qui est bien, c'est que ça illustre mine de rien la réalité des métiers souvent en indépendance, c'est qu'il faut aller choper des trucs à droite,
ouais,
et à gauche.
À droite, à gauche, ouais.
Sam pourra nous en parler aussi, c'est que même parfois les trucs que tu fais un peu plus par passion, c'est rarement les plus rémunératrices, enfin c'est des trucs que tu fais par passion, rémunérateur, et puis bah ouais, il faut faire rentrer de l'argent à côté, donc tu acceptes,
ouais,
des choses plus
institutionnelles. Ouais, mais en fait t'as plusieurs steps, tu vois, dans le vivre de sa passion et accepter genre des sacrifices.
Ouais.
Et tu vois, typiquement quand tu sors d'une école de cinéma, tu sais, c'est pas des études où on te forme entre guillemets à être professionnel. Mm-hmm. Tu vois, j'ai la théorie, mais on trouver du taf dans ces métiers-là quand t'es pas pistonné, c'est compliqué.
Ouais, c'est du réseau beaucoup, donc
c'est du réseau. Donc t'as des gens, ils font quoi? Ils achètent un Canon 5D ou un Sony A7S3 machin en se disant bah je vais bosser gratos pour des potes et tout, puis ça va m'amener des jobs. Mmh. Bon, déjà...
Ce qui peut arriver, mais c'est pas évident, quoi.
Ce qui peut arriver. Mais en fait, au bout d'un moment, tu finis par mettre ta passion de côté. Et moi, je me suis rendu compte assez vite que le cinéma, c'était pas une passion. Les films, le contenu vidéo, audiovisuel, c'était pas une passion. Ma passion, c'est la musique. Et donc, je cherche pas forcément à ce que ce soit rémunérateur. Je pratique la musique, j'en écoute beaucoup, j'aime en parler. Mais genre, à partir du moment où il y a un aspect financier, genre, je préfère éviter.
Ok. Ah,
tu veux pas que ta passion devienne ton travail, c'est ça le...
Non.
pour que ça reste une passion.
Je pense que c'est impossible. Ouais. Alors, je pense que c'est impossible.
Ça, c'est très intéressant parce que...
Bonne question.
On va peut-être laisser Sam, justement, aussi nous parler de comment il en est arrivé professionnellement à travailler dans la musique et peut-être réagir aussi à ça parce que c'est une discussion même qu'on a eue un tout petit peu avant, juste avant l'émission, justement, sur l'écoute de musique, etc., où, professionnellement, ça change quand même ton rapport à la musique aussi.
Tout à fait. Bah justement, je vais rebondir sur ce que dit François, c'est que, effectivement, par exemple, moi, j'estime que je ne travaille pas dans la musique.
Ouais.
En fait, je gravite autour de la musique.
Ouais.
Je suis un ancien... je suis toujours musicien, mais j'ai moins le temps en ce moment, mais j'étais un gros musicien avant. Au début, ce que je voulais faire, c'était de la musique. Je voulais passer les médailles d'or de conservatoire. J'ai fait 13 ans de solfège. J'étais vraiment dans ce créneau-là, j'ai commencé à le faire et je me suis vite rendu compte qu'en fait, clairement, c'est un métier de passion et quand t'entends métier de passion, c'est souvent les sous, ils rentrent pas. Tu vois, là,
oui.
C'est... Voilà. Et du coup, voilà, tu vois, moi, par exemple, ma première chose, je me suis dit, écoute, je vais peut-être travailler, par exemple, dans la technique, dans la musique. Par exemple, faire ingénieur du son, peut-être que du coup, il y a le mot ingénieur, tu vois. Donc, tu te dis peut-être que, justement, ingénieur, ça va prendre des sous. C'était sur les conseils de. D'ailleurs, c'était un peu sous l'impulsion de mon père. C'est vrai que j'ai une bonne oreille. Il me disait, tu devrais faire ça et tout. Et en fait, ça s'est pas fait. J'ai décidé carrément de faire du droit, tu vois.
Ok.
Ah ouais. Mais du droit de la musique, peut-être.
Non, j'ai fait du droit constitutionnel. J'ai fait du droit public. Je faisais genre 27 heures de droit. Et quand tu rentrais chez toi à la fin de la soirée, on te demandait de refaire. Ah bah non, tu vois ce que tu fais à la semaine, 27 heures de droit. Tu dois faire 35 heures de droit en plus chez toi par semaine. Je vais vite arrêter. Mais le droit, c'est quand même, ça reste quand même quelque chose de passionnant. Mais après, voilà, c'est pareil. Je pense que, par exemple, un avocat, c'est quelqu'un qui s'est dit, tiens, je vais faire, en fait, limite, c'est ma passion. Et donc, moi, après, je suis tombé, j'ai fait diverses expériences, j'ai fait de la communication. Enfin, à savoir que j'ai toujours fait de la musique en parallèle. J'ai toujours eu des groupes, j'ai toujours bossé, je faisais de la MAO, je faisais des trucs. Mais bon, après, je me suis dit, en fait, j'ai essayé de trouver une vraie carrière. J'ai fait de la communication. Et du coup, c'est mon père qui est revenu à la charge. C'est un ingénieur du son, c'est pas mal.
c'est cool d'avoir ce soutien autour de la musique. Ça effraie souvent les parents quand même, ce type de métier.
Mes parents ne sont pas musiciens.
Ouais.
Ils n'ont jamais étudié la musique. Mon père est mélomane, adore la musique. D'ailleurs, Léo Ferré. mère aussi aime beaucoup la musique et il a toujours voulu qu'on puisse en faire. Il a jamais demandé à ce qu'on travaille dedans. Il a toujours voulu qu'on s'épanouisse là-dedans, surtout qu'en fait, il nous a inscrit au conservatoire. Il a vu qu'on kiffait, ça s'est fait un peu tout seul, tu vois. Il a jamais voulu. Mais il a senti que, en fait, je pense que moi, j'étais, par exemple, jusqu'à la troisième, j'étais un peu un élève qui aime bien travailler, tout. Arrive au lycée, c'est une autre life. T'arrives, tu te dis, ouais, les cours, c'est chiant et tout. Et il voyait que le seul truc qui était moteur dans ma vie et auquel j'arrivais à investir du temps, c'était quand je faisais de la musique. J'arrivais à m'ouvrir des pages, tu sais, quand tu fais de la batterie, tu fais droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, les moulins, un truc comme ça. Alors que, par contre, réviser des cours d'histoire, réviser des cours de maths, des trucs comme ça, ça ne m'intéressait pas.
Ouais.
C'est une phase, je pense, qu'on a tous dans sa vie. C'est lui, justement, qui a poussé ce truc-là. Et du coup, je le remercie parce que c'est grâce à lui que j'ai fait une école qui s'appelle la SAE. Mm-hmm. En fait, je vous raconterai pas pourquoi je me suis retrouvé à la SAE parce que c'est pas spécialement intéressant. Mais toute l'idée, je me suis retrouvé là-bas et je me suis dit, j'ai envie de tenter le truc. Et en fait,
école de technicien du son, donc la SAE.
Ah oui, exactement. Pardon. Ouais. La SAE qui est une école d'ingénieur du son musique, ce qui est pas tout à fait vrai parce que pour être ingénieur, il faut faire 5 ans d'études. À la SAE, tu fais 2 ans d'études. Donc en fait, tu as un diplôme reconnu par l'État qui est technicien son.
Ok. Et donc tu fais cette école ?
Je fais cette école, je déballe, je rencontre un ami qui s'appelle Pilou, qui m'a fait... On a monté une team, on a fait de la musique ensemble, on a fait beaucoup de choses. En rencontrant Pilou, j'ai aussi rencontré Flavien, qui est ici, qui est aux manettes du son, justement. Il y a eu plein d'aventures et après j'ai décidé après avoir fait quelques années de freelance son de monter ma structure qui s'appelle La Bouclette.
Ouais. Vous faites de la presta aussi à l'extérieur, notamment pour du live stream, vous bossez avec beaucoup de gens extrêmement différents, pas toujours dans la musique, mais qu'il y a quand même La Bouclette TV où là vous faites, c'est votre projet à vous avec personne d'autre à l'extérieur. Peut-être que tu peux nous dire juste très rapidement ce qu'est la Bouclette TV, parce qu'on en a pas parlé en fait.
Bien sûr, en fait, La Bouclette TV est une branche médiatique de notre société de production La Bouclette. Voilà, un pitch que je n'avais.
C'est classe dit comme ça.
Ouais, 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 mais quand on a lancé le premier épisode de Bouclette TV, il n'y avait pas le pitch. Hein. En gros, d'ailleurs, big up Nino, voilà, qui nous regarde. En fait, en gros, moi je suis passionné de musique, j'ai beaucoup travaillé avec des musiciens, et j'ai beaucoup. Tu sais, on a produit des clips, on a produit aussi pas mal de live sessions. Parce que moi, comme j'étais, président de la boîte et ingé son, bah en fait j'arrivais vachement à facilement en fait pouvoir développer ce caractère dans nos projets, et on nous appelait un peu pas mal pour ça, et en fait je le faisais pour des artistes et j'étais très frustré du temps que ça prenait, des échanges inutiles parfois que ça demandait, et de l'investissement que tu donnais pour que ce soit au top, que le son soit au top, que la captation soit au top, que tu retransmettes l'instant au top, parce que c'est ça qu'on veut dans des vidéos musicales. Et que ce soit parfois diffusé mais n'importe comment, et que ça fasse absolument pas de vues, mais genre vraiment un flop total, tu vois. Et en fait ça m'a un peu, je me suis dit mais en fait c'est pas possible, du coup quand tu bosses sur d'autres projets et que ça te rappelle tant d'argent versus ce que tu donnes là, en fait c'est qu'au bout d'un moment, en fait là du coup clairement tu peux pas faire ta passion, tu peux pas travailler dans ta passion. Et du coup avec une personne avec qui on a monté ce projet à l'époque, on s'est dit bon, viens, en fait on demande plus d'argent pour faire ça, viens on le fait gratos en fait, et on va inviter des artistes à bosser sous nos conditions, comme ça eux en fait ils ont pas à réfléchir, ils viennent juste faire leur musique, nous on a un cadre, on n'a pas à réfléchir, on applique notre cadre et on va monter nos épisodes musicaux comme ça. En fait ça a commencé, on accueillait des artistes dans nos bureaux, donc c'était facile, ils venaient chez toi en plus, tu vois. Et du coup on vivait des moments de musique avec eux. Moi j'insiste sur le moment musical, parce que ça va au-delà de la musique, c'est en fait la création de l'instant avec eux, de l'équipe, du mood de l'artiste, de comment tu les accueilles, tu vois. Et du coup voilà, on a lancé nos épisodes comme ça, et en fait ce qui était cool c'est que en fait tout le monde a kiffé qu'on le fasse comme ça, et à la base c'était censé être des one shot, et en fait on n'a jamais arrêté depuis. Et après on a fait pas mal de vidéos comme ça en accueillant pas mal d'artistes, l'épisode pandémie est arrivé, fameux Covid, du coup en fait on pouvait plus le faire, on pouvait plus inviter des artistes chez nous, et on s'est dit bon, enfin en tout cas plus le faire dans les conditions qu'on avait, on a fait une pause, et après on s'est dit bah vas-y, il y a plus de concerts. Comme on fait, on a relancé ça en live stream en se disant bah on va faire des concerts chez nous, on a déjà un peu la techno, on a déjà des caméras, vas-y, de toute façon on n'a pas de travail en ce moment parce que personne ne peut travailler. Et on a commencé à lancer ce truc là et on s'est pris de passion, et du coup là voilà, je dirais que ça fait deux ans et demi qu'on diffuse régulièrement une fois par semaine des concerts en ligne sur Twitch, Facebook et YouTube. Voilà.
De toute façon le plus simple c'est certainement d'inviter les gens à aller voir la Bouclette TV.
Exactement. Simplement. N'hésitez pas à venir voir la Bouclette TV. Vous tapez la Bouclette TV sur Google. C'est assez facile à trouver. Vous pouvez venir nous voir, retrouver nos vidéos sur YouTube. Sur Twitch, vous pouvez revoir les émissions qu'on a produites. On est aussi sur Instagram. Alors là, on a fait une petite pause sur les réseaux parce qu'on était en vacances. Mais on va revenir fort. Comme on l'a déjà fait.
On va revenir fort, ouais, tous les artistes. Revenir. On va revenir fort.
Ouais. Mm. On est là, hein, on est là.
Là, on est là. Je le dis très souvent d'ailleurs. Ah, je le dis très très souvent. On est là.
François, pour rester un peu sur sujet, je le trouve intéressant. L'un des derniers gros jobs que tu as fait, c'est que tu bossais sur le dernier clip de Stromae. Celui. Oui. Je ne sais pas si vous voyez.
Fils de joie.
Fils de joie. Ouais, et ce clip, toi, t'avais quel rôle et comment ça se passe parce que c'est quand même une super production. En tout cas, à l'échelle de la France. C'est une super production en termes de budget, etc., même de visuel, de rendu. Et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ce clip, on vous mettra, bon, voilà, allez regarder. Tu vois, c'est là où, effectivement, pouvoir mettre la vidéo, ça aurait pu être cool de mettre un petit extrait, tu vois, en parallèle, on y pensera.
En picture, par exemple, je pense à ce moment-là.
Bah ouais, mm-hmm. Ça peut être pas mal. Non, on discute en même temps de comment faire évoluer le podcast et tout, vous inquiétez pas, c'est normal. Ouais, ça avait quoi comme rôle, et c'est quoi de bosser, parce que, voilà, pour relier notre sujet de la musique, c'est quoi de bosser sur un énorme clip comme ça?
Moi j'étais post-producteur, donc en gros c'est la personne qui coordonne la boîte de prod, le label et la boîte qui va faire les effets spéciaux, parce que c'était un clip avec beaucoup d'effets spéciaux. On avait un budget très confortable, mais on avait très peu de temps. En fait on avait un mois de post-prod, et quasiment 75% des plans nécessitaient de la 3D, du tracking, beaucoup de figurants dupliqués en 3D, etc. Et ce, malgré le budget qui était confortable, si tu veux. Enfin, tu peux avoir un budget, mais pas avoir le temps,
oui,
avoir
des délais,
exigences,
oui,
qui se rajoutent. Voilà. Et donc, moi, mon job,
c'était en gros de faire le suivi de ce qu'il y avait à faire. Donc, en général, t'as un storyboard, tu prévois en amont d'un tournage les plans qui vont être faits, qui vont être truqués, t'as un superviseur qui va sur le tournage, qui dit, ben là, sur ce plan-là, on va mettre des petites croix au sol, on va filmer comme ça, pour que ensuite en post-prod, on puisse intégrer tel truc et tout. Et donc, voilà, en gros, c'est ce boulot-là. C'est un job qui est passionnant. Si t'aimes le stress, c'est cool. Mais après, en fait, le souci, c'est que tu prends vraiment toute la pression. Et le clip est sorti. Il a plutôt bien marché. Moi, je suis pas fan du rendu parce que j'ai eu les mains dedans pendant 2 mois. Mais ouais, après, c'est un job... moi, je prends... J'ai appris à plus trop prendre à cœur, en fait, ces trucs-là. Parce que si ça merde, c'est pas de mon ressort, tu vois. Enfin,
tu te protèges, en fait.
Ouais, mais c'est important de se protéger, tu vois. Genre, ouais.
Tu peux pas... tu te préserves plus que tu te protèges, en fait.
Ouais, c'est ça. Moi, je suis pas réalisateur, je suis pas directeur artistique. Moi, mon job, c'est de communiquer avec des techniciens 3D. Les techniciens 3D, c'est basique, hein. Eux, ils s'en battent les couilles de la musique. En général, ils l'écoutent même pas avant de faire le clip, tu vois.
Ouais.
Donc, il faut que tu arrives à leur traduire, en gros, les exigences du réalisateur. Et là, bon, bah, pour le coup, Stromae, ce qui est intéressant, c'est que le réalisateur, c'était un anglais, mais c'est co-réalisé par Stromae et son frère qui, en fait, ont le label. Donc, c'est comme si tu avais 3 égos qui voulait 3 choses différentes, et moi j'étais au milieu, en essayant de les mettre d'accord. Mais en essayant de les mettre d'accord sur la base d'un budget, c'est-à-dire ça, on va pas pouvoir avoir effectivement 3 hélicoptères, même en 3D. On n'aura pas le temps. Il nous reste 2 semaines avant de livrer, ça va coûter tant, on n'a pas l'argent, même si on avait de l'argent, tu vois. Et donc du coup, bah c'est des allers-retours, et des graphistes qui te présentent des trucs, ça va pas, personne n'est content, donc faut les aiguiller. Et donc c'est un job un peu de directeur artistique aussi, parce que tu vois, le clip, ça se passait dans une espèce de dictature fictive un peu aux accents un peu brutalistes et tout dans l'architecture. Il s'avère que bon, moi c'est des trucs que je connais bien, donc quand il y a des galères sur les statues, quel type de pierre, quel type de machin, bah c'est arrivé à sortir les bonnes références, à faire valider ça, à faire des allers-retours, histoire que tout le monde soit content et d'éviter au maximum les dégâts. Bon. Mais ça, le clip, c'est rare. C'est rare quand tu peux te permettre ce genre de luxe. En général, un clip, c'est 15 000 balles de budget. Mmh. Là, on avait 30 fois plus. Ouais. À peu près.
Ce que je vous propose, c'est peut-être passer à une autre partie et un peu plus musicale. Enfin, pur, musical pur. Soit, j'ai plusieurs. Allez, vous savez quoi, je vais vous faire voter. Il y a plusieurs possibilités, parce que j'ai pensé à différentes parties. D'une part, je vous ai demandé déjà de venir chacun avec un délire musical du moment. Mais peut-être qu'on peut terminer avec ça, et on écoutera même de la musique. Nous, ouais. Nous voter dans DLT, on va pouvoir écouter de la musique, et on le fera plus maintenant. Donc, y a ça. Je vous propose aussi de parler peut-être un peu de vos pratiques musicales.
Oui.
Et voir comment ça s'articule avec votre profession. Et à la limite, on peut faire ça et le mêler à l'idée de la passion, le taf, parce que c'est un truc qu'on avait commencé à l'évoquer au début de l'émission, à savoir et cette peur qui peut exister de se dire ma passion, si je la transforme, si elle se retrouve dans un cadre professionnel, est-ce qu'elle va pas s'atténuer? Est-ce que je vais pas en être dégoûté même au final? Donc à la limite, partons de ça, de non plus, parce que là on a évoqué l'aspect professionnel, comment vous travaillez dans la musique, et plus l'aspect personnel, comment vous le vivez, ce que vous faites éventuellement de votre côté, et surtout comment ça s'articule avec le pro, et est-ce que ça peut avoir une incidence? Peut-être que Daz, alors sachant qu'il y a des profils particuliers.
Ah oui.
Daz, toi t'es peut-être celui qui pratique le moins la musique à l'origine.
Exactement.
Comment c'est venu?
Exactement, de gré à gré, comme tout ce que je fais. Hein. Ouais. Moi, je saisis les opportunités, mais globalement, oui. Moi, je suis rentré dans la musique en tant que faiseur, en faisant du rap comme tout le monde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dis, bro, Ouais, ils le font, je pense que je peux le faire aussi, ça a pas l'air ouf, tu vois. Et en fait, voilà, donc je suis rentré par ce biais-là, d'abord devant le micro, et puis après, en fait, à force de rester dans des sessions où toi, ton texte, tu l'as posé, mais après, le mec qui est derrière la console, en fait, il lui faut 167 heures pour... tu vois, bricoler les trucs, rajouter des effets et tout. Ouais. Et en fait, bah, du coup, tu restes là, t'es à côté, et puis tu commences à t'intéresser au truc, et tu trouves ça cool. Et moi, il n'y a jamais eu de plan de carrière, tu vois, parce que je me suis jamais dit, je vais être un rappeur connu, je m'en fous, tu vois. C'était vraiment... j'avais des trucs à dire.
Mais t'as enregistré des choses, non?
Ouais, j'ai enregistré des trucs, ouais, bien sûr. J'ai bossé justement avec des mecs, donc à Saint-Denis. Il y a un collectif qui s'appelle Ursa Major, je me suis retrouvé sur une tape avec eux. Ursa Major, à l'époque, c'était le Wu-Tang français, donc c'était que des kickers freestylers de ouf, tu vois. Donc quand on m'a dit, ouais, ils vont être sur la compu, je fais, wow, ok, c'est chaud, tu vois. Et donc je me suis ramené pour la session, et je pensais être seul avec le beatmaker. Et en fait, non, il y avait 12 mecs okay. qui étaient dans le salon, tu vois. J'étais là, je fais, ok, pression et tout, tu vois. Ouais, moi, j'ai jamais eu ce. Enfin, je voulais faire les trucs proprement. Mais sans aucun plan défini, donc je m'en foutais en fait. J'étais avec des potes, on s'entendait bien, on avait envie de faire du son ensemble, on a fait du son ensemble. Comme dans tout groupe, il y a des gens qui sont un peu plus investis que d'autres, tu vois. Donc un des gars avec qui je tournais vraiment, big up à lui, c'est Run. Lui, il voulait vraiment en vivre. Moi, j'étais plus en dilettante parce que voilà, je savais parler, je savais écrire. Et donc voilà, c'était un kiff, mais à aucun moment je me suis dit je lâche mon day job pour devenir rappeur, tu vois, c'était même pas un plan. Mais il n'empêche que ça, le fait de taffer des textes, de trouver des punchlines, de machin, c'est quelque chose qui me sert encore aujourd'hui. Parce qu'en fait, dans le podcast, tu vois, aller à l'essentiel, être percutant et faire en sorte que tu balances des trucs, t'as des images et les gens les retiennent, c'est quelque chose qui m'a permis d'écrire des chroniques, d'abord en blog, ensuite... en podcast, donc Studio 404, qui était notre émission, où en fait les gens me disent ouais, Daz et ses punchlines, Daz et ses punchlines, mais en fait, ouais, ça vient de. Tu vois, ça sort pas de nulle part. Et ce que je fais aujourd'hui, qui est principalement de l'animation Twitch, donc du stream live, c'est-à-dire que tu tiens un live de 3h, 3h30, 4h devant des gens, ça vient aussi de. Enfin, tu vois, le fait de pouvoir discuter, de pouvoir articuler ta pensée, de pouvoir percuter, de pouvoir faire des choses comme ça, tout ça vient de la musique, tu vois, finalement. Donc. Moi, je vis pas de la musique, mais ce que je fais aujourd'hui et qui me fait vivre, ça vient de là, en fait. C'est parce que j'ai fait de la musique à un moment donné, parce que j'étais à la recherche permanente d'idées, d'images, de trucs, que j'ai pu développer ma plume, qui fait qu'on est venu me chercher, parce que je suis rentré dans le podcast précisément parce qu'on m'a dit, ouais, mais toi, j'aime bien comment t'écris, ça serait cool qu'on t'entende derrière un micro, parce que je pense que t'as une grande gueule et que c'est intéressant. Et tu vois, ça m'a amené à d'autres trucs, et je me suis retrouvé avec Six, et etc. Toi, t'es venu me chercher aussi, parce que t'avais vu ce que je faisais, et c'est pareil pour le streaming, on est venu me chercher parce qu'on savait que j'avais une appétence pour la tech et que je savais en parler, et que du coup, voilà. Donc, au final, c'est du produit dérivé, tu vois, mais je pense que tout vient de là. Si je m'étais pas lancé dans le rap en 98 avec mes potes, peut-être que aujourd'hui je serais pas ici, tu vois.
Et ce qui est marrant, c'est que la pratique artistique, typiquement écrire, rapper,
ouais.
C'est aussi un truc que tu fais pour toi, souvent parce que ça te permet de libérer quelque chose,
ouais.
Parce qu'il y a un plaisir. Et c'est pas un truc que t'as gardé. T'as pas voulu, même si, tu vois, ok, là, pas de professionnalisation, je comprends.
Ouais.
Mais tu vois, continuer à gratter du texte à la maison, continuer à poser un peu pour le plaisir
non,
à la maison.
Non, parce qu'en fait, j'avais d'autres canaux pour exprimer ce que j'avais envie de dire. En fait, c'est ça le truc, c'est que t'as le besoin d'exprimer tes trucs, ok. Et effectivement, ce que j'exprimais pas en musique, j'avais toute l'attitude pour l'écrire en blog. Les chroniques que je faisais dans Studio 404, où on parlait de tout et de rien, je pouvais parler des claviers AZERTY ou des shots de dopamine liés à Instagram, tu vois. Mais en fait, à chaque fois, j'essayais de...
C'est marrant comment tu lis les deux.
Bah, en fait, j'essayais d'imbriquer en fait ce que j'avais envie de dire. C'est-à-dire que tu me demandes de parler de Facebook, il n'y a pas de problème, on va parler de Facebook. Par contre, on va aussi parler des biais de la Silicon Valley par rapport à plein de choses, et puis on va peut-être parler des violences policières, parce que, et tu vois, ça tombe comme ça dans le truc, et les gens peuvent se dire, putain, ça part dans tous les sens, mais en fait, pour moi, il y a un plan, tu vois, c'est que j'utilise un sujet comme porte d'entrée, et après, je te dis ce que j'ai sur le, tu vois, j'avais un blog qui s'appelait What's on my mind, en fait, où vraiment, je balançais des trucs, et ça pouvait être du très léger, comme des sujets un peu plus de fond, et c'est ce que je continue à faire aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on en rigole, mais quand je suis sur Twitch, t'as l'impression que je joue à Hearthstone, mais en fait, je fais du talk pendant 3 heures, tu vois. Et on peut parler de plein de sujets. Et en fait, à l'issue de ce truc-là, j'éprouve pas le besoin de prendre un micro et de le chanter, tu vois, parce que...
Ça, je comprends, parce qu'au niveau de l'expression, t'as trouvé un autre canal, comme tu le disais, d'autres canaux en tout cas, mais c'est pas la même chose de faire de la musique. Et d'ailleurs, tu fais un peu de beatmaking, t'as une petite MPC à la maison, donc il y a quand même un plaisir qui est propre quand même,
mais en fait,
l'activité artistique et musicale, en l'occurrence.
Ouais, mais en fait, tu vois, quand j'ai acheté la MPC, c'était évidemment un peu un rêve de gosse, tu vois, parce que la MPC, tu la vois dans les... Dans les photos des sessions studio, tu vois la machine derrière, tu dis waouh, incroyable, etc. Moi, il y a des mecs que je considère comme des dieux de la musique qui tournaient avec cette machine, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Et quand j'ai eu les moyens de l'acheter et que...
Et c'est presque plus l'objet qui t'a attiré que...
Je suis un mec de la tech. Ouais. Je suis un mec de la tech. Ouais. Donc en fait, moi, j'ai toujours voulu m'acheter une MPC 1000, tu vois. Ou une 500. Bon, la 500, il y avait que 9 pads, c'est un peu chum. Mais la 1000, tu vois. Je me disais, en fait, à un moment donné, le Tekos en moi, il s'est dit, je vais dépenser beaucoup d'argent pour une machine que moi, j'estime ne plus être à jour technologiquement et ça me fait chier. Tu vois. Donc j'ai attendu et après, Akai, ils ont sorti des nouvelles MPC avec des écrans tactiles, multipoints, etc. J'ai fait, ok. Et là, j'avais l'argent, donc j'ai acheté cette machine, donc une MPC Live, c'était quoi, en 2017. Avant ça, je faisais de la MAO vite fait avec d'abord Logic ou ce genre de truc, tu vois, Reason sur PC, tout ça. Et je suis tombé dans la MPC, je me suis mis à sampler comme un ouf. Et les instrus que je fais, à aucun moment je me dis il faut que quelqu'un chante dessus, je m'en tape en fait, je fais du son, tu vois, pour faire du son. Les sons que je fais, à aucun moment je les mixe ou j'en fais un truc qui doit être publiable. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné sur Twitch, il y a eu le DMCA qui est arrivé, où on t'a dit en gros, si tu passes de la musique qui n'est pas libre de droit, ta vidéo peut se faire striker, c'est-à-dire que en fait Twitch se pose pas de questions, il mute le son. Et c'était à un moment donné, bon, entre temps maintenant il y a eu des contournements, c'est pour ça qu'aujourd'hui je peux écouter les Jackson 5 en stream et ça pose pas de problème. Mais
ça va falloir qu'on en parle de ça après le podcast.
Bah, y a pas de
c'est
problème.
Très intéressant ce que
je
tu dis.
La,
avec grand plaisir.
La fameuse piste 6. Mais à un moment donné, en fait, je me suis dit putain, merde, il faut des sons quand même pour sonoriser, parce que sinon t'es un stream où tu parles machin. Où il n'y a pas de son, parce que tu joues pas un jeu dans lequel tu as une aventure avec une bande-son, etc. C'est un peu triste, tu vois. Donc je me suis dit, ah bah, en fait, j'ai des sons, moi, dans ma bécane. Et en fait, ça a commencé comme ça. Je me suis dit, je vais faire des sons, et c'est des instrus qui vont servir juste d'accompagnement pendant qu'on parle d'autre chose, tu vois. Mais à aucun moment, je me suis dit, je fais ces sons-là pour moi poser dessus. Parce que honnêtement, j'arrive à un âge où ce que j'ai besoin de le dire, je le dis, et j'ai plus besoin, enfin tu vois, comme quand tu te sens un peu vide, tu vois, t'as l'impression que t'as dit ce que t'avais à dire, et du coup tu ressens pas le besoin, tu vois, que je pouvais avoir plus jeune, de ah, il faut que je le dise, il faut qu'on m'écoute, que le monde m'entende, etc. En fait, là maintenant,
Est-ce qu'après on t'écoutait peut-être moins aussi quand t'étais jeune, tu sais, c'est
oui, bah
facile
c'est ça,
d'affirmer,
ouais.
Tu sais, t'as envie de dire quelque chose, et en fait les gens, juste parce que t'es jeune, en fait
t'es pas
crédible, du coup le fait de le mettre dans le rap, que ce soit beau, qu'il y ait une cohérence dans tout ça,
ton
message,
tu
dis, il est écouté, quoi, mon message.
Il y a ce truc là, il y a l'aspect pure jeunesse aussi, revendicatrice, parce qu'on est tous de gauche quand on est jeune, tu vois, et quand on commence à payer des impôts, on change d'avis, mais c'est vrai, tu vois. Mais il y a ce truc là aussi qui est
pas
que non, mais il y a ce truc aussi qui est que effectivement, j'ai moins besoin de revendiquer le truc, parce qu'en fait, j'ai tellement de moyens de le faire au quotidien, que ça soit en stream, que ça soit en blog, que ça soit sur Twitter. T'as une infinité de moyens de dire ce qui te passe par la tête au moment où tu le ressens. Et du coup, je me balade pas avec un Moleskine.
Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que... Et après, on parlera aussi avec François, avec Sam, chacun leur expérience. Mais c'est que ta culture rap a certainement beaucoup influencé ta vision de la musique. Et c'est vrai que ça passe beaucoup par... Parce que les autres canaux d'expression que tu peux avoir... C'est de la parole, c'est des phrases, etc. Mais faire de la musique, c'est autre chose. Ça peut être quand t'es chanteur, quand tu écris les textes, etc. Effectivement, mais ça peut être aussi utiliser ses doigts sur un instrument, c'est faire du son. Tu vois, pour moi, c'est pas exactement. Il peut y avoir plusieurs approches. Et j'ai l'impression que toi, c'est très lié à la parole, la voix, et qu'en fait, comme tu assouvis ça à côté, c'est bon. Moi, je sais que par exemple, ne pas toucher un instrument, ça m'embêterait, tu vois.
Ouais, parce que toi, t'es ce qu'on appelle un musicien technicien.
Je sais pas, un instrumentiste en tout cas, ça.
Moi, ouais, un instrumentiste. Ouais. Moi, en fait, ce qui me plaît dans le hip-hop, c'est le flow. C'est le timing des phrases, c'est les mots qui sont choisis, la façon de les dire.
Oui, mais c'est très musical, ça, c'est pas lié au sens forcément.
Ouais, mais
choses.
Du coup, en fait, c'est quelque chose qu'effectivement, moi, je peux retrouver ailleurs. Ouais. Et du coup, j'ai pas ce besoin de prendre un micro et de m'enregistrer comme un guitariste. Pour... T'as pas 46 000 façons d'assouvir ton besoin de guitariste quand t'as pas de guitare, tu vois. Et en fait, l'intérêt quand t'es, je dirais pas parolier, parce que voilà, mais quand en fait, t'aimes l'écriture, c'est que tu peux assouvir ce truc-là sur une infinité de formes, en fait. Ça, et moi, ça me va, du coup. Oui, là, si tu me dis, est-ce que tu nous ferais pas un 16 mesures là tout de suite, je vais te dire, bon, on s'en fout un peu, tu vois.
Parlons de la même chose avec François. Et là, ça doit être, à mon avis, une approche extrêmement différente. Parce que t'es celui autour de cette table, alors quoi, peut-être qu'il y a des choses que je sais pas sur Sam, mais t'es celui autour de cette table qui va le plus loin dans sa démarche artistique. C'est-à-dire que tu sors des choses.
Ouais, après, c'est pas que je sors des choses, c'est qu'elles sont trouvables en ligne. Tu vois,
c'est ce qu'il a sorti pour qu'elle soit trouvable.
Ouais, mais tu vois, ça a été, c'est pas une démarche, quoi. C'est vraiment quelque chose que un peu que j'ai un peu fait par accident, que je comptais pas forcément faire.
Parce que toi, à la base, tu es musicien. Comment tu t'es
pas
mis
du
à la
musique? Ouais. Non, en fait, moi, j'ai jamais appris d'un instrument. J'ai jamais appris le solfège. J'ai essayé, mais ça me gonfle. Tous mes potes d'enfance jouent d'un instrument, mais moi, j'ai jamais pratiqué, quoi. Enfin, j'ai toujours adoré les objets, que ce soit une guitare, un synthé, etc. Mais j'ai jamais voulu maîtriser un objet, tu vois. J'adore savoir comment ça fonctionne et tout, mais je ressens pas le besoin de l'apprivoiser, tu vois. Mais par contre, j'ai mes grands frères qui, eux, faisaient des rave parties, faisaient de la hard tech, de la techno, tu vois, des trucs un peu hard. Et donc, dans leur chambre, il y avait une MPC, justement, une MPC 2000 XL.
Waouh!
Avec 32 mégabits de mémoire, tu vois. Et des séquenceurs, des boîtes à rythme, des TB-303, des trucs comme ça. À l'époque, bon, la MPC, ça coûtait cher, mais les trucs un peu, les boîtes à rythme, c'était pas si cher à l'époque. C'était avant le retour du vintage. Et du coup, ben, je les voyais faire de la musique inécoutable, mais, mais des trucs, eux-mêmes n'étaient pas musiciens, tu vois. Et genre, ils étaient juste, ils branchaient des trucs et ça faisait du son, mais c'était genre, ça suffisait à passer un bon moment. Et du coup, ben, j'ai écouté beaucoup de musique, en fait. Plus que, en fait, c'est ça, je suis pas musicien, mais j'écoute énormément de musique.
Non, mais qu'on soit clair, un musicien, c'est pas forcément un instrumentiste, etc. C'est à partir du moment où tu fais de la musique, t'es musicien, pour moi, c'est tout. Pas professionnel, etc.
Ouais,
mais
c'est ça, en fait, j'écoutais vraiment beaucoup de musique parce que j'ai eu une adolescence un peu tranquille, mais je me sentais assez seul. Et la musique, c'était en voiture, à vélo. J'ai grandi à la campagne, tu vois, c'est quelque chose qui me... Quand j'ai eu l'âge d'avoir un baladeur MP3 ou un Discman, tu vois, c'était... Je trouvais ça réconfortant, donc... J'ai fait mon stage de troisième chez un disquaire, à l'époque. Et c'était à l'époque où il y avait... commencé à avoir le peer-to-peer et tout, donc du coup, genre... Je découvrais à balle de disques que je pouvais pas me payer, donc je les piratais, tu vois, et... c'était fascinant, quoi. Genre, je découvrais plein de musique, des trucs que je kiffais, enfin... Et c'était l'époque, un peu... IDM, Warp, tout ça. Et j'ai découvert Boards of Canada, au début des années 2000. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire de la musique, en fait. J'arrivais pas à identifier, genre... Savoir comment c'était fait, quels instruments... Et puis, tu vois, j'ai compris ce que c'était le sampling et comment tu pouvais faire de la musique en samplant. Et du coup, voilà, je me suis acheté un clavier MIDI, j'ai commencé à faire de la MAO sur Reason.
Ah, le Reason.
Puis voilà, quoi, j'ai commencé à réfléchir un peu, genre, comment je pouvais faire de la musique que je pouvais emporter avec moi, tu vois, genre, dans des moments où j'avais besoin d'écouter quelque chose. Et donc, du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvé à enregistrer, tu vois. À la base, c'était un peu des trucs que je faisais pour moi. Voilà. Et un jour, j'ai bossé avec Arnaud Rebottini. Je sais pas si vous voyez qui c'est.
Bien sûr. musicien de musique électronique, techno.
J'ai fait des clips avec lui, et lui, il a un studio rempli de machines et tout, et genre j'ai bossé assez longtemps avec lui.
C'est un gros passionné de hardware, Robotini.
Voilà, et en fait j'ai compris que c'était pas si compliqué que ça, tu vois. C'est si t'as un côté un peu nerd et tout, bon, j'avais pas les moyens d'acheter genre 1000 synthés vintage, mais avec le matos que j'avais, j'étais capable de faire de la zik potable.
C'est marrant. Daz, il y avait ce côté rap, voix, parole qui ensuite a été utilisé dans d'autres domaines, etc. Mais il y a ce truc qui t'habite à la base dans ton rapport à la musique. Là, François, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se dégage, c'est plus le... C'est comment ça marche. Il y a un truc un peu comme ça qui... C'est quoi cette machine qui permet de faire tel son? Comment on obtient ça? Comment il y a un peu de
c'est
ça?
C'est plus genre, comment moi je peux refaire tel son?
Ouais, mais pour ça, il faut comprendre comment ça... Ouais. Ok, pardon.
Bah, oui, il faut le comprendre, mais pas forcément. Ça peut être hyper intuitif, en fait. Et ce qui m'intéressait avec Boards of Canada, c'est le côté... je sais pas si vous connaissez bien Boards of Canada autour de cette...
Bien, non. Moi, j'aime bien Boards of Canada.
C'est de la musique ambiante, un peu étrange, tu vois. Genre, ouais,
c'est assez fin de... dans la façon dont c'est traité, comment ils produisent le son. Faut...
Mais attendez,
là, c'est l'ingé son.
Si t'as envie de t'amuser à reproduire ce qu'ils font, faut quand même chercher un peu. Hein. C'est pas t'appuies sur une banque de son et dire « Ah, c'est celui-là
en ». Fait, les gars. Ce qui me plaît, c'est que c'est de la... Oui, pardon.
Vas-y. Non, vas-y, finis là-dessus sur ta phrase. Ce qui te plaît,
c'est... Ce qui m'intéresse, tu vois, c'est de me dire « Ce son-là, j'ai l'impression de l'avoir déjà entendu. » Alors que non, tu vois. Alors que... Comment, d'où ça vient? Enfin, en fait, c'est vraiment l'image mentale que ça peut provoquer chez toi. Et c'est pour ça que c'est plus ou moins lié au cinéma dans une certaine mesure. C'est que l'image que je me fais de cette musique, ça correspond à un état d'esprit, quelque chose que j'ai en moi. Tu vois. Et c'est ce truc-là que j'essaye de creuser dans ce que je fais musicalement. Et c'est souvent instrumental.
Je me permets de mettre, parce que je me suis dit, c'est le moment ou jamais de tester notre nouvelle feature dans ce podcast. On va essayer d'écouter plus de musique. Et nous, j'ai mis, alors, je sais pas si c'est le morceau le plus adapté, mais un peu de Boards of Canada pour qu'on ait une idée. C'est l'un des plus gros tubes, j'imagine, parce que c'est le premier sur Spotify.
C'est un banger.
Voilà le style à peu près Boards of Canada, quoi. Je sais pas si c'est le plus représentatif.
Ça, c'est punchy pour du Boards of Canada.
Bah, c'est le tube, hein, là, c'est le tube.
Mais c'est, tu vois, c'est ce son-là, typiquement, c'est un Roland SH-101.
Ouais.
De base, tu vois.
Ah ouais, t'es chaud quand même, t'es chaud.
Ah, c'est...
Non, je veux dire, c'est que ça.
C'est synthé monophonique.
C'est vrai?
Et ouais, ouais. Mais avec plein d'effets, dans des sampleurs et tout, tu vois.
D'accord.
Et donc, du coup, j'ai commencé à faire de la musique dans mon coin. Et quand j'habitais à Bruxelles à l'époque, j'ai rencontré des gens qui avaient une émission de radio qui m'ont dit putain, un soir, ils étaient chez moi et ils ont voulu écouter ce que je faisais. Ils ont dit, bah vas-y, putain, c'est stylé. Envoie-nous un morceau, on le passe à la radio et tout. Je dis, ah, ok. Puis un jour, je sais pas, je me suis retrouvé dans un bar à Bruxelles et j'ai entendu un morceau que j'avais fait, tu vois.
Ça doit être une sensation assez étonnante, c'est incroyable.
Mais c'est un morceau, il y avait 300 écoutes sur SoundCloud, tu vois. Et j'ai reçu un mail d'un label, un petit truc, tu vois, en Californie, justement, à Oakland, à côté de San Francisco. On dit, vas-y, on fait une compile. On aimerait bien mettre ce morceau dans notre compile.
C'est incroyable.
Puis un jour, ils m'ont dit, bah vas-y, genre, si t'as un EP ou quoi, file-le et on distribue, tu vois. J'ai fait ça. J'ai fait un album pendant le confinement. Et c'est un album qu'à la base, j'ai fait pour moi, parce que je suis très sujet à l'anxiété. Et c'était un peu un truc qui avait vocation à me calmer. Tu vois, genre. Et ce truc-là, je l'ai sorti et il y a 5000 écoutes peut-être sur Spotify, c'est rien, tu vois. Mais je l'ai jamais mis en ligne, enfin, j'ai jamais fait de promo ni rien. Je l'ai posé là. Parfois, je reçois des mails de gens qui habitent genre en Australie, au Canada, au Mexique, qui me disent genre, j'ai trop aimé ce morceau et tout, merci, tu vois. Genre.
C'est trop bien.
Et genre, ça fait trop plaisir, tu vois.
De ouf.
On s'écoute un petit exemple de ce que tu fais.
Non,
Si, regarde, ça a commencé de toute façon, t'as pas le choix. C'est moi qui ai les commandes, donc.
À la base, j'avais fait un EP de Synthwave avec un pote en 2018 qui avait plutôt bien marché. Justement, et il y avait eu des achats, et avec cet argent, on avait pressé genre 100 vinyles. Et ça s'est sold out en une semaine, et on nous avait proposé de faire genre un DJ set au Japon, tu vois. Et c'était que des trucs comme ça, un peu random, tu vois. Mais c'était un peu des opportunités qu'on avait provoquées et tout. Mais, tu sais, genre, ça nous suffit, c'est rigolo et tout, mais ça... J'ai pas envie de donner suite à ça, enfin, genre, je me sens pas redevable, genre, de continuer quoi que ce soit. Si je me sens de faire un truc, je le ferai. Là, en ce moment, bof, mais...
Et tu te dis pas que ça pourrait...
Te faire vivre.
Te faire... Non, et même au-delà de ça, enfin, t'épanouir, que de pouvoir plus te concentrer là-dessus, et donc pour avoir plus de temps à te concentrer là-dessus, idéalement, en tirer un petit revenu pour pouvoir, voilà, être plus là-dessus, qui se fait vibrer quand même, apparemment.
J'ai pris quand même pas mal de dispositions pour pouvoir m'adonner à des projets externes. Tu vois, je me suis mis en freelance, j'ai déménagé dans un pays où globalement mon loyer me coûte moins cher qu'à Paris. Je travaille à mon compte, je peux facturer un peu plus cher, que je peux avoir plus de temps libre aussi. C'est ce temps libre-là, ben, je l'occupe à faire de la musique, ouais. Mais pas forcément, enfin... Ouais, je mets pas trop la pression, genre j'ai deux synthés, une guitare, une basse, ça me suffit.
Okay. Ouais, tu sais qu'ils sont là et tu peux compter sur eux, quoi. Donc dès que t'auras besoin d'eux, ils seront toujours là, quoi.
Carrément. En fait, j'avais ce truc-là au début, tu vois, je me suis dit, bah, quand je traînais un peu avec Rebotini, de me dire, il me faut plus de matos, il me faut plus de trucs. En vrai, tu remarques que genre les plus grands albums, ils sont faits avec très peu de moyens. Et souvent l'économie de moyens, la contrainte, c'est ce qui
ça te force à chercher, ouais, à ouais, faire preuve de plus de créativité, ouais.
Ouais, c'est ça. Mais en vrai, mater des tutos, des trucs comme ça, je suis incapable de reconnaître un accord de septième mineur d'un accord suspendu, je sais pas quoi, tu vois.
Ouais, mais par contre, tu reconnais un synthé monophonique roman SH1, tu vois, donc...
Ouais, c'est ça, mais tu vois, moi, il y a un mec que j'admirais énormément, c'est Vangelis.
Ah bah oui.
Qui nous a quittés, qui est un mec qui a jamais su lire une partition, tu vois. Mais putain, le mec, tu le mets dans une pièce avec des claviers, des percussions, il te sort des trucs... C'est l'intuition, c'est...
L'autodidacte, ouais.
Ouais. Alors ça prend plus de temps, quand tu maîtrises pas le solfège, d'arriver à tes fins. Ce qu'il te faut, c'est du temps.
Je trouve aussi qu'il y a... Je sais pas ce que vous en pensez. Et après, on pourrait peut-être passer au Kassam, parce que nous a expliqué que toi, t'avais fait du solfège pendant longtemps, etc. Mais je trouve qu'en fait, on prend souvent le truc à l'inverse. Alors... Enfin non, c'est pas qu'on le prend à l'inverse, comment dire ça exactement? C'est-à-dire que souvent on dit, c'est pas nécessaire pour commencer la musique de passer par les cases solfège, etc., très structuré, un truc, voire scolaire, académique, etc. C'est vrai. Et même parfois d'ailleurs, pour éviter de trop dégoûter les gosses, c'est pas mal de commencer directement en mettant ça un peu de côté. Par contre, je trouve que c'est assez pertinent de dire qu'une fois que tu as acquis une certaine solidité musicale, que ça devient un atout supplémentaire, un plus, que t'es pas obligé de travailler, mais qu'être capable de maîtriser le solfège, l'harmonie, les modes, etc.
Moi, je suis
y compris
d'accord.
Avec un cadre académique, ça peut mettre, même si ton art est basé beaucoup sur l'instinct, etc.,
sûr,
ça peut
oui.
te faire passer encore une étape. Et si t'arrives à mêler les deux mondes, ben là, t'es un super musicien, en général.
Mais c'est pour ça que... Ouais, en fait, c'est pour ça que, personnellement, je me suis jamais considéré comme musicien, plus comme bidouilleur, tu vois. Ouais. Parce que justement, j'ai pas de formation académique et je me suis toujours, moi, dit, si tu connais pas les accords et si t'as pas fait du solfège, t'es pas légitime. Ouais. Et pourtant...
C'est pas ce que j'ai du tout, d'ailleurs.
Non, ouais. Mais en fait, moi je m'étais mis cette barrière-là en mode, ok, tant que je connaîtrai pas mes gammes de piano, je pense que je fais pas de musique, tu vois, je fais du bruit organisé.
Mais c'est terrible d'arriver à ce constat-là, tu vois, de dire ça, pourquoi? Enfin, tu vois, qu'est-ce qu'on véhicule pour quelqu'un arrive à intérioriser
mais
ça?
Mais je pense que, ouais, c'est l'état d'esprit de la musique telle qu'elle est enseignée en France, en tout cas, ou ce qu'on te fait comprendre. Et moi, c'est quelque chose qui... j'ai été complètement décomplexé de plein de trucs quand je lisais dans un magazine américain une interview de Warren G à l'époque. Donc Warren G, le demi-frère de Dr. Dre, qui a sorti Regulate en 94, machin, etc. Donc, et qui a des prods que je trouve...
Quel classique, Regulate.
Bah ouais, qui a des prods qui sont incroyables. Et où le mec, en fait, expliquait qu'il avait absolument aucune base de solfège et qu'en fait, la ligne de basse qu'il avait en tête, quand il était en studio, il avait un bassiste qui lui savait jouer et lui disait juste, moi j'aimerais bien que ça fasse doudoum doudoum doudoum. Et le bassiste en fait fait la ligne de basse, fait ok, vas-y, monte d'une octave.
Moi je te propose ça et toi.
Ouais, et en fait tu te rends compte que, ah putain, le mec il fait des albums de fou avec des sons de malade sans avoir jamais touché un instrument et je trouve ça incroyable, tu vois. Et l'autre moment pour moi qui est très libérateur, c'est le premier album de Little Brother, intégralement produit par un gars qui s'appelle Nine Founder, où moi j'étais aussi dans cette recherche constante de matos, comme toi t'as pu l'avoir à un moment donné en disant il me faut du matos, il me faut du matos, il me faut du matos, où je me disais ouais, si t'as pas ce matos là t'arriveras pas à faire du bon son, tu vois.
C'est vrai.
Et j'ai appris que Nine Founder il a fait donc The Listening, qui est un des classiques du hip-hop, sorti en 2003, avec un Dell Latitude sur lequel toi tu ferais même pas ta comptabilité, tu vois. Et le mec t'a fait un album complet avec des sons et des samples de fou furieux avec un PC bureautique, même pas de carte son, le mec en avait rien à foutre et ça s'entend. Les drums, elles sont éclatées, machin, tout le monde, c'était devenu une blague, tu vois, genre, ouais, switch un peu tes drums, il fait non, je les garde, elles sont flinguées. C'est les drums par défaut de je sais pas quel logiciel, je crois que c'était Fruity Loops à l'époque, donc FL Studio maintenant, et le mec, il a fait ça avec un PC que t'achètes à Carrefour, tu vois. Et je me dis, ok, en fait, avec un PC à $250, le mec, il te fait un album que les gens écoutent et qui ont accompagné certaines personnes dans certaines parties de leur vie, tu vois, et je me dis, ok, en fait... Full décomplexion, tu vois, mais vraiment.
Et ça existe encore, ça. Moi, je suis étonné parfois. Il y a quelques vidéos, vous savez, sur le web, où ils vont voir un beatmaker actuel, par exemple, dans le rap, etc. Et parfois, tu tombes sur le mec, limite, il utilise un laptop
Madlib
de base, etc.
Madlib,
et surtout, il a fait un tube, le mec, il a fait une prod qui devient un tube plus tard, avec des écouteurs branchés directement, tu vois, sans rien, etc. Alors, évidemment, derrière, à mon avis, c'est repassé. Il y a eu un ingé son qui a mixé ça, peut-être à nouveau, masterisé ça, etc.
Pas forcément.
Mais quand tu vois, c'était
sur des gros artistes, hein. C'était des prods sur des gros artistes.
Non, attends, moi, quand tu vois un mec comme Madlib, qui est un des. Je parle même plus de beatmaking à ce niveau-là, c'est de la prod pure, tu vois, c'est un des producteurs les plus cotés du game. Le mec fait il a fait l'album qu'il a fait avec Freddy Gibbs qui s'appelle Pignata et que je vous conseille d'écouter. Toutes les instrus sont faites avec un iPad. Et là, tu fais ok. Ouais. Alors que tu te dis, ce mec-là, c'est un gars qui doit avoir 18 MPC. Je veux dire, Madlib, il a toute l'attitude à acheter tout le matos qu'il veut. On lui donne, tu vois, on lui offre les trucs. Et le mec, il fait le son sur un iPad, quoi. Et tu te dis, waouh, la liberté que le mec a, en fait, de se dire, on s'en fout. En fait, fais un truc, si ça sonne bien, ça sonne bien.
Il y a tellement de bons outils maintenant sur iPad que ça m'étonne pas.
Tu vois, pour des vrais techos qui se disent, tu vois, parce que.
Oui, c'est une approche, en tout cas.
Ah ouais, quand tu vois Dr. Dre en studio, le mec, il a une console à $350,000, tu te dis, ok, si t'as pas ça, tu peux pas faire le son de Dr. Dre. Et t'as Madlib qui arrive avec un iPad 2, il fait, bah, moi, je fais du son, tu vois, et il fait des albums qui fracassent. Et tu dis, ok, en fait, ce qu'il faut, c'est juste la créativité, l'envie d'eux, plus que de se dire, si j'ai pas le matos, ça marchera pas. Et c'est pour ça, tu vois, que de mon point de vue à moi, la MPC, ça a été aussi assez libérateur, parce que, comme on parlait tout à l'heure avec François, c'est la contrainte. C'est ok, j'ai la MPC, j'ai des kits à l'intérieur, qui, évidemment, il y a 12 millions de kits de drums, etc. Mais j'ai mes kits, j'ai mon sample, et je me démerde avec ça. Mmh. Alors que quand je faisais de la MAO avec Logic, avec Reason et tous ces trucs-là, en fait, surtout avec Logic, t'avais vraiment la notion de il faut que je trouve les derniers plugins, les derniers machins. Et en fait, c'était une course en avant.
De toute façon, ça va pas marcher, quoi. En fait, si j'ai pas ça, mon
si
son
j'ai pas
va
ce
être pourri, quoi.
Ça va pas être le bon truc si j'ai pas ça. Et en fait, ben, moi, je me retrouvais des fois à fermer le logiciel après 3 heures, j'avais rien. Mmh. Là, avec la MPC, j'allume la machine et en un quart d'heure, j'ai un truc qui tourne, tu vois. Et en fait, ça, c'est justement se dire que je travaille avec le set d'outils limité que j'ai. Je trouve ça trop cool.
C'est important.
C'est vraiment une approche qui est plus dans le dépouillement, dans le minimalisme, à la limite. Et c'est trop, trop bien, vraiment. Donc voilà, si vous n'avez pas de la dernière machine à la mode, c'est pas grave. Faites votre son, faites ce que vous voulez.
La première track que j'ai faite, c'était avec Musique 2000 sur PlayStation.
Oui, ou pas ? Bien sûr.
C'était genre.
C'est un peu dans le Désir DJ, etc. Dans le Désir DJ et compagnie à l'époque.
Ouais. Ouais. C'était Musique 2000, c'était un jeu de PlayStation où tu faisais de la zik avec ta manette, quoi. Et t'avais Nano Loop sur Game Boy aussi, tu vois. Et je pense que c'est le meilleur morceau que j'ai jamais fait, tu vois. c'était incroyable, tu vois. C'était de la dance pourrie. Mais je me suis amusé à faire ça.
Putain, écoute, on l'a, François.
Non, mais c'est comme les trackers, les trucs comme ça.
Ouais,
vois,
bah ouais,
la
carrément.
La contrainte ultime, tu vois.
Ah ouais, carrément.
Il y a des scènes trackers qui sont incroyables.
Sam, toi, on n'a pas encore trop parlé de ta pratique.
Alors que t'es le seul académicien autour de cette table.
Tu t'inscris dans quelle philosophie? Est-ce que c'est une autre? Est-ce que tu retrouves chez François le côté on sépare les choses, c'est au plaisir? Le côté d'Az, bah, finalement, j'ai réussi à le mettre, passer par un autre canal pour exprimer ce dont j'avais besoin. Et au final, j'ai pas besoin de faire de la musique quotidiennement. Ou comment tu le vis tout ça, ton rapport à la musique, toi, le fait d'en faire?
Je suis passé par la caisse conservatoire, donc j'ai appris à lire la musique avant de faire de la musique. Ouais. C'est quelque chose qui m'a marqué. Moi, j'ai commencé par un instrument. Déjà, j'ai commencé par la flûte traversière. Donc, ah ouais. C'est pas un instrument commun, tu vois. Je me souviens de l'instant. En fait, j'étais en CP et il y a un monsieur qui venait nous montrer des instruments et moi, j'étais le mec qui a dit ah j'adore la flûte traversière, je veux faire de la flûte traversière. Mes parents, ils ont dit bon bah vas-y, on va mettre la flûte traversière. Ouais, tu vois. Maintenant, je fais surtout de la batterie, des gros trucs, bien quand ça fait du bruit et tout. Moi, j'ai commencé par la flûte traversière. C'est un instrument qui est très technique. En fait, il faut savoir bien, machin, tu vois, bien souffler, bien positionner.
Qu'est-ce que c'est dur, les instruments avant?
Puis ça défile. Hein. Souvent, c'est un instrument où tu vas envoyer de la grosse double croche, après de la triple croche, tu vas gérer sur plusieurs octaves et tout, tu vois. Donc, j'étais très chaud en lecture. Clé de sol, clé de fa. J'étais un bon élève, un peu. J'étais le petit gars qui va au solfège, pas trop à reculons. Mmh. Et arrivé à mes 13-14 ans, j'ai commencé la branche. En fait, ça, c'est donc là, je parlais de la branche classique, parce que quand tu fais de la flûte traversière, considéré comme plutôt un instrument de la branche classique, j'ai commencé la branche jazz. Mmh. J'ai commencé les percussions, la batterie, je faisais de la basse. Et quand j'ai eu mon premier cours d'ensemble jazz, où en fait, à un moment, il y a un mec qui te dit « Bah voilà, tu vas enchaîner des 16 mesures, ok, concept, tout. » Et là, du coup, vous allez improviser. Ah mec, là, t'es perdu. Là, t'es perdu. Il y a des gens, ils te regardent et tu fais genre n'importe quoi. Tu vois, tu dois faire n'importe quoi. Et du coup, et en fait, c'est complètement... T'as plus tes repères, elle est où ma partition, tout ça, tu vois. Et en fait, tu te rends compte qu'en fait, la musique académique, c'est genre comme quand t'apprends... t'as des cours de français à l'école, c'est pas parce que t'as pas eu de cours de français que tu sais pas parler, en fait. Mmh. T'apprends à parler en parlant à des gens. Et en fait, je me suis rendu compte, tu vois, en poussant un peu le truc et tout, après j'ai grandi, en fait, tu te rends compte que, en fait, t'apprends à le mieux pour apprendre à jouer de la musique ou te créer des bases de musique ou de vivre la musique, en fait, c'est de jouer de la musique avec des gens. La musique, c'est aussi
avec des gens, même. Mais,
et avec des gens, c'est un moyen de communication. Et pour moi, en fait, c'est t'apprends, en fait, pour moi, le solfège, c'est comme les conjugaisons, en fait, tu vois. C'est une manière de comment tu veux. C'est ça, exactement.
Ça peut avoir
tu vois.
Son utilité aussi.
Mmh. Ah bah, complètement.
Tout à fait, ça a son utilité, mais le problème, c'est qu'en fait...
Tu restreins à ça seulement.
C'est qu'en fait, ça va te brider et en fait, tu vas pas pouvoir t'épanouir. Et tu vois, tout à l'heure, j'ai cité un ami qui s'appelle Pilou. Je me souviens, que j'ai rencontré à la SAE, qui, lui, est un très bon guitariste. Il m'avait proposé de jouer dans son groupe à l'époque. Et du coup, j'ai joué dans son groupe. Je me souviens, le mec, putain, il joue bien la guitare. Il a un feeling, en fait, avec la guitare, tu vois. Et justement, on a échangé et tout, machin. Et j'ai dit, ouais, on a commencé à parler théorie musicale. Il fuyait un peu le sujet, tu vois. En vrai, je pense qu'on peut en parler en toute ouverture. Et en fait, j'ai appris qu'en fait, Pilou, tu sais, c'était le gars, genre, tu joues un truc, il va te le reproduire à l'identique. Direct, comme par là, tu vois. Moi, par exemple, c'est chaud pour moi de faire ça. Tu joues un truc, faut que je théorise. Là, c'est les notes, il y a des tons, il y a des demi-tons, tu vois. Lui, il te rejoue le truc. Et en fait, j'ai appris qu'il savait pas vraiment lire la musique. Mais le gars, c'était une bête à la guitare. Et je pense que c'est un mec, genre, par exemple, demain, il y a un mec qui cherche un guitariste, tu leur donnes Pilou, ils vont être trop contents, tu vois. Parce que le gars, en fait, il va communiquer avec les gens, il va arriver à se mettre derrière, à remonter devant. Ce qu'on veut, quand tu montes un groupe de musique, c'est échanger, c'est faire du show, c'est avoir des relations, tu vois, rentrer dans des délires. Et parfois, quand t'es dans l'improvisation, bah, si un jour tu fais la gueule, tu auras une improvisation comme ça. Si un jour t'es en joie, tu auras une improvisation comme ça. Tu vois, tu sors du concept de la musique. Et justement, avec l'arrivée de tout ce qui est MAO, en fait, ça a vachement désacralisé la création de la musique. Et moi, je trouve que c'est quelque chose de bien. Un non-musicien devient un musicien. Et là, je pense que les gars qui font de la musique classique, ils font Ouais.
Par contre, ça a modifié le rapport à... Enfin, le fait de jouer en groupe et à plusieurs. Il y a quand même un truc qui... Ça existe toujours, évidemment, mais je pense qu'il y a un truc qu'on... Avec l'arrivée de la MAO, la capacité
tout
générer seul, individuellement, et de se dire, Après tout, pourquoi le batteur? Bah, je préfère mettre, tu vois,
une machine,
un easy drummer ou une boîte à rythme plutôt qu'un batteur, parce qu'au moins il arrive à l'heure, tu vois.
Ouais, enfin, ou il joue en place aussi, tu vois. Bah, c'est clair que genre demain tu dois performer un concert. C'est sûr que ça va être plus. En fait, demain t'as un concert, ça va être plus cool de jouer avec une boîte à rythme qu'un batteur qui est pas en place et qui te met un coup de snare au lieu de mettre un coup de kick et inversement, alors que tu lui demandes
alors,
un truc simple.
Alors là, encore pour la scène, c'est encore autre chose, parce que après il y aura pas le jeu de scène, etc. Il y aura pas l'occuper l'espace.
Ouais, ou même pour l'enregistrement, c'est un peu pareil. Tu veux des mecs flap qui a enregistré une batterie, c'est pas comme faire une loupe de batterie. Tu vois, c'est quand même plus facile de faire une loupe de batterie. Après, ouais, c'est un sujet tellement vaste, tu vois. Puis c'est des histoires de cycles, tu vois.
Non, mais d'ailleurs, ça me permet ce que tu dis, en fait, par rapport à acoustique, électronique, etc. Ça me rappelle que j'ai émis l'hypothèse selon laquelle, tu vois, avec la MAO, etc., ça c'était peut-être un peu plus individualisé, tu vois, chacun sur son ordinateur, etc. Il y a une nuance quand même à apporter, comme toujours avec le numérique. C'est que oui, peut-être que les gens ils jouent moins ensemble dans la même salle. Par contre, après, c'est ça s'envoie la prod par mail, puis je rajoute tel truc, etc. Et en fait, il y a une collaboration et de l'échange d'une manière différente, certes.
Ouais, en fait, et je pense que si t'as envie d'échanger dans la musique et de le faire avec des gens, en fait, tu vas trouver un moyen de le faire. Et peut-être que tu vas avoir aussi un autre délire qui se crée, c'est-à-dire que, en fait, tu vois, moi, par exemple, je faisais beaucoup de musique. Tu sais, si je peux faire un rapport par rapport avec Daz, justement, tu disais avant, bah, du coup, tu faisais du rap, maintenant, tu fais plus, du coup, tu parles, et du coup, en fait, t'as souvenu un petit peu ton, t'exprimes, justement, t'as souvenu un peu ton truc. Moi, c'est un peu pareil. Moi, je faisais de la musique pour jouer avec des gens, pour faire des trucs avec des gens. Aujourd'hui, je sens moins ce besoin de faire de la musique que je ressentais énormément avant, parce qu'en fait, je fais toujours des trucs avec des gens.
Bah ouais.
Et je m'éclate, tu vois, je parle à des gens, voilà. En fait, je produis des choses avec des gens, je concrétise des choses avec des gens, tu vois. Et
on se retrouve là-dessus. Ouais.
C'est ça, en fait, tu vois. Et bah, par contre, peut-être du coup, à distinguer de François, qui justement, tu disais, ça me permet de calmer mon anxiété, donc je fais de la musique. Mais tu vois, je veux dire, tu le fais pour une raison, tu vois, que t'aimes. Et tu as dit au tout début de l'émission, je le ferais pas si j'étais payé.
Des gens, par exemple.
Ah, bah tu vois, mais c'est un... Mais peut-être un jour, tu vas peut-être trouver un autre anxieux qui va te dire « Moi, j'aime bien faire mes trucs un peu comme ça, ça me fait du bien. » Et puis hop, tu as une alchimie, quoi, tu vois.
Ouais, ouais, bah, ouais. Mais parce que je me sens pas forcément musicien non plus.
Tu vois, bah oui.
Il y a ce truc-là.
Mais pourtant, tu
parles le même langage.
T'es musicien, tu fais des morceaux, fais de la musique.
Ouais, moi, je trouve ça, moi, je connais des gens, mec, qui sont jaloux de ce que t'as fait.
Syndrome de l'imposteur. Parce qu'il a pas le solfège, donc il se sent pas légitime, alors que, tu vois.
C'est pas ça, c'est juste.
Si, c'est ça, François.
T'as des gens qui se mettent sur des logiciels de MAO, ils font des trucs, ce n'est pas de la musique, en fait, tu vois, c'est vraiment, genre, il y a aucune tonalité.
Ils peuvent faire de la musique.
Ouais, mais dans le sens où, en fait, tu vois, il y a ce rapport coupable à ce qu'on appelle de la musique.
C'est quoi exactement ce que tu ressens, toi, François ?
Non, mais c'est juste que quand je joue de la musique avec des gens, en général, je suis pas en place, les gens se font chier. Mais par contre, si j'enregistre ce qu'on fait, je prends ce qu'ils ont joué, je le ramène chez moi, j'en fais un truc. Je sais que je suis capable d'en faire un truc cool.
T'es pas un musicien live. T'es asynchrone.
Voilà.
Je suis asynchrone,
c'est ça. Mais
ça, par contre, c'est un truc, j'ai l'impression, qui est lié, en l'occurrence, aux des musiques qui reposent beaucoup plus sur des machines. J'ai l'impression qu'il se crée une culture de la pratique musicale, je pense notamment dans la musique électronique, où effectivement, la culture du jam, par exemple, qu'on retrouve beaucoup dans le rock, dans le blues, dans le jazz, etc., de partage et d'improvisation et d'être capable de suivre, là tu pars sur quelle tonalité, etc., ok, on y va ensemble, etc. C'est plus difficile pour un musicien qui vient de la scène électronique, par exemple, en général.
Ou alors c'est du jam électronique.
Ça doit certainement exister. Non, mais
chacun branche sa machine.
Il y a plein de pratiques différentes. Mais...
Non, mais c'est vrai que si toi, t'es un mec qui est dans l'électronique, dans des machines, etc., et que tu te retrouves sur un set avec un vrai guitariste et un bassiste ou un clavier, ça va être compliqué. Ouais.
Et c'est pour ça d'ailleurs que plein de mecs.
Moi j'adore le jazz, mais tu vois, je suis plus dans l'écoute, on va dire. Tu vois, tous les morceaux que je fais, sans exception, je les commence en partant d'un sample d'un morceau que j'aime bien. J'écoute un morceau, je me dis putain, j'aime bien, genre, juste ces 10 secondes. Je vais les refaire, je vais dire putain, à partir de ça, qu'est-ce que je peux faire qui me parle, qui a rien à voir avec le truc de base. Mais genre, pourquoi ça m'a touché? Et du coup, si des gens jouent de la musique, quelle qu'elle soit, électronique ou pas, genre, je vais d'essayer, genre en l'écoutant, de trouver ce qui peut me toucher et de le transformer. Peu importe si c'est des musiciens ou pas, ou genre, c'est peu importe.
Écoute, pour moi, quel que soit le résultat, quel que soit le résultat, à partir du moment où tu produis avec soit des instruments, des logiciels, etc., un truc dont ta volonté c'est de faire de la musique, t'es un musicien. Après, chacun libre à chacun de hiérarchiser, donner des valeurs à chacun, etc. Tu fais du son, bah, t'es peut-être un petit musicien, entre guillemets, t'es peut-être un musicien du dimanche, j'en sais rien, tu vois, mais t'es un musicien, c'est tout, tu vois.
Et toi, justement, Salman, on parle de nous, mais toi, oui. toi. Bah,
moi, je me suis déjà un peu exprimé, en fait, dans d'autres épisodes, c'est pour ça que je me concentrais surtout sur vous. Et moi, la pratique musicale...
T'es instrumentiste.
Je suis instrumentiste, mais... Ma culture, c'est vrai que ma pratique musicale, elle vient du fait qu'à l'origine, je suis instrumentiste. Et ça, c'est clair que ça m'a marqué. Et que ça modifie forcément. Et que, typiquement, par exemple, avec Renoiser, Jérôme, qui est aussi sur cette chaîne, moi, mon premier réflexe, c'est « Vas-y, mec, viens, on fait un truc ensemble, je vais chez lui, etc. » Et lui, en fait, il n'a pas cette culture. Moi, je sors ma guitare, j'essaie de le suivre. Et lui, il a l'impression qu'il n'y aura pas cette réciprocité, que lui n'est pas capable ensuite, etc. Et donc, ça crée un décalage. Au final, on ne fait pas de musique ensemble, par exemple. Au-delà du fait qu'il aime pas le funk, et ça forcément ça pose problème pour qu'on fasse de la musique ensemble. mais ce qui fait qu'effectivement je le vois, en fait, c'est quand je me confronte aux autres pratiques musicales que je me rends compte qu'effectivement moi j'ai aussi mon propre prisme et qui vient, c'est vrai que j'ai été marqué par le fait d'être un instrumentiste. Alors que moi j'ai l'impression, dans ma pratique musicale depuis pas mal d'années maintenant, depuis peut-être 10 ans, même pas loin, un truc comme ça, d'avoir mis de côté le fait d'être un guitariste presque. Ce que je veux dire par là, c'est que mes 10 premières années de guitare, bon, un peu moins, j'étais fasciné par exemple par les shredders, par les techniciens, par les mecs qui vont vite, par la technique guitaristique, par les courants musicaux où la guitare est omniprésente. Ça me fascinait, j'écoutais pas que ça, etc. Mais clairement, c'était, tu vois, ma pratique musicale était liée aussi à ça. Et ça fait pas mal d'années maintenant que ça m'intéresse quasiment plus. Je suis toujours impressionné par un super beau guitariste. Pas celui qui va le plus vite, mais celui qui a un toucher incroyable, qui est dans la finesse, etc. J'adore ça. J'adore toujours les guitaristes. Mais j'ai mis ça tellement au second plan, et maintenant, je peux mettre juste une cocotte ou faire trois notes, et après, eh ben, je vais mettre une batterie, je vais me prendre un clavier, machin, etc., et je vais essayer d'alimenter autrement. Là où ça va me ramener au fait que je suis instrumentiste, c'est par contre pour composer, j'ai besoin d'avoir une guitare. C'est-à-dire que tu mets un clavier, je peux faire quelques trucs, je fais deux nappes, je fais une basse, etc. J'ai besoin de mon instrument que je connais, entre guillemets, pour par contre essayer d'élaborer un truc un peu sympa en termes de composition. Ça, je suis obligé de repasser par là.
Ouais, c'est ton levier pour sentir le truc, trouver ta basse, quitte à rejouer un truc, leur jouer au piano après.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Là, ça me ramène aussi, hormis, il y a le fait de se confronter aux autres, et puis il y a moi, quand j'essaye d'être dans la créativité, j'ai besoin de repasser par mon instrument. Par contre, dans mon but final, et le produit que je veux obtenir, la guitare n'est qu'un élément parmi les autres, quoi. C'est à peu près le rapport que j'ai, en tout cas, voilà, au fait d'être instrumentiste.
C'est intéressant aussi comme point de vue, le fait de... Enfin, tu vois, pour moi, je me dis tellement, les mecs qui savent lire la musique, ils sont sur... Tu sais, ils évoluent sur un autre plan dimensionnel, que moi, je me dis, le gars qui sait lire de la musique et il est guitariste, tu lui files un clavier, il est claviériste. Tu vois, enfin, je me pose même pas la question, alors qu'en fait, bah oui, c'est logique.
C'est vrai qu'il y a une certaine facilité quand même, tu vois, quand tu connais la
musique. En fait, d'autres instruments.
Il y a aussi, tu sais, le fait d'apprendre à jouer d'un instrument, tu sais, c'est quand même vachement bâtard, parce que tu commences au début, tu fais de la technique, tu sais pas pourquoi. En gros, ouais, c'est un peu bâtard, parce que tu dois justement énormément travailler pour avoir le truc et tout. Et en fait, c'est qu'au-delà d'apprendre un instrument, en fait, t'apprends sur toi-même, t'apprends à apprendre quelque chose, t'apprends à t'investir dans quelque chose. Moi, par exemple, je sais que j'ai par rapport au fait d'avoir fait de la batterie, d'avoir fait beaucoup de coordination entre les membres et tout ça, d'avoir appris les timings et tout, je sais que ça m'aide dans mon boulot de réal. Par exemple, je sais que par exemple, sur un pupitre où tu changes les caméras, mais moi, tu sais, j'ai pas trop besoin de regarder là où j'appuie, parce que j'ai l'habitude, surtout, tu sais, la flûte et tous les délires comme ça, tu vois. C'est quelque chose qui t'apporte, tu vois. Et par exemple, apprendre demain un nouvel instrument, je le ferai beaucoup plus vite. Parce que je sais apprendre, je sais ce que. Et je me connais, je sais ce qui va me saouler. Je sais, par exemple, ça, bah non, mais ça, en fait, fais pas ça, parce que sinon, dans deux semaines, t'as arrêté, en fait. Tu vois, il y a toute une autre étape, tu vois. Ce qui est beau, justement, dans l'instrument de musique, c'est que t'apprends, tu rentres dans un champ des possibles. Et c'est pour ça, tu vois, on parle, tu vois, tu disais tout à l'heure, un musicien, c'est comme si t'as ton niveau, toi, tu juges un musicien comme si, comme ça. En fait, c'est quelque chose de tellement subjectif qu'en fait, c'est le plus important, c'est peut-être toi pour toi. Avant aussi de poser toujours la question de toi au travers du regard des autres.
C'est pour ça que moi je m'écarte du truc, si je me dis, à partir du moment où il y a un mec, il fait des sons il fait de l'audio et il me dit bah je fais de la musique et qu'il a produit un truc audio, bah ok, t'es musicien mec, après je pourrais juger ton truc et tout, mais
t'es un mauvais musicien mais t'es musicien.
mais j'ai aucun problème avec ça, tu vois. Et d'ailleurs aussi, parce que t'as lié le fait, tu dis le mec qui est guitariste, qui sait lire la musique alors il sait jouer d'autres instruments. Pareil, moi par exemple je sais pas lire la musique, je fais de la guitare mais je sais pas lire la musique. C'est d'ailleurs l'un des intérêts de cet instrument, la guitare, c'est comme c'est un instrument extrêmement populaire, il y a eu des approches beaucoup plus variées, et pour justement proposer un enseignement un peu plus de masse avec des gens autodidactes, avec des gens inspirés par le rock, etc., et qui ont une autre approche de l'instrument, ça, ce qui est très intéressant. C'est pour ça que c'est un instrument cool en fait à apprendre, c'est parce que plus naturellement, en vérité on peut le faire avec tous les instruments, mais plus naturellement on pourra te dire ok, on sort des carcans, amuse-toi avec l'instrument, ça, absolument. Même si, ça c'était un truc aussi, parce que je sais que parfois on peut nous le reprocher, parce que c'est plus ce qui peut ressortir de notre discours quand on parle du côté plus académique de la musique. Rappelons aussi que, y compris dans les conservatoires, etc., il y a des ateliers de groupe, on pousse à jouer ensemble, qu'il y a des approches aussi beaucoup plus libres, etc., que ça évolue avec le temps, que, enfin, pour pas donner une vision trop diabolisée, entre guillemets, du milieu
non,
académique.
Non, moi, c'est justement, moi, personnellement, je suis très content de mon expérience de musique classique au conservatoire. Elle m'a appris beaucoup, elle a écrit sûrement la façon dont j'arrive à cette table aujourd'hui, tu vois, et voilà, hein, c'est, bien sûr, c'est, en fait, faut pas voir.
Qu'est-ce qu'il y a?
Il essaie d'arriver tout moins doucement à une conclusion, puis là t'arrives. Ouais, mais tu sais.
Avec cette émission, c'est vrai que ça fait quasiment deux. Enfin, c'est même plus de deux heures qu'on enregistre. On a fait un bon tour, les gars. Je vous propose, pour terminer, pour clôturer l'émission pour de vrai, on termine juste avec quelques morceaux de musique. Je vous ai demandé, donc, avant l'émission, de choisir un morceau en lien avec votre délire musical du moment. Ouais. Délire musical au sens large. Pour vous donner un exemple, je peux commencer si ça vous va. Mon délire musical, en vrai j'aurais aimé qu'on en parle, nos délires musicaux, mais bon, on n'a plus le temps, on refera ça une autre fois. Mais en ce moment, je suis fasciné par les DJ. Je suis fasciné par le DJing et par le fait de mettre des sons pour faire danser les gens. J'ai toujours aimé ça, hein, mais j'ai commencé à regarder comment on fait. Comment on fait pour être DJ, tu vois? Pas professionnellement, mais enfin comment on mixe, quoi, comment on fait. Et donc j'ai commencé à regarder les contrôleurs, parce que les trucs les plus accessibles dans un premier temps, c'est des contrôleurs avec des logiciels.
Ouais, les Traktor.
Exactement, il y a Traktor, il y a Recordbox, je crois c'est ça le nom, le truc de Pioneer, il y a Serato, etc. Enfin, il y a plein de trucs différents. Et le truc pas trop cher, c'est que en gros pour 200 balles, 200, 300 balles, mais ça commence même certainement un peu moins cher, t'as un contrôleur qui te permet de contrôler le logiciel et tu peux commencer à faire des trucs et à commencer à prendre des réflexes, tu vois, pour être DJ, quoi. Bref.
Tu veux faire ça comme ça?
Non, mais et tu sais quoi, et j'aime bien m'être penché là-dessus parce que je le savais déjà, mais si t'es un sens soit peu curieux, ce discours de dire le DJ sert à rien ou ne fait rien ou c'est pas un musicien, etc., bah tu mates des mecs le faire ou tu regardes des tutos ou comment utiliser telle machine, etc., et tu dis mais bien sûr qu'il y a des compétences, une expertise, un savoir-faire absolument indéniable, tu vois. Et moi je les mets dans la clique des musiciens, les DJ perso. Ils utilisent certes la musique des autres, mais d'une certaine manière, il crée quelque chose de nouveau quand même à partir de la matière des autres. Donc, moi, ça me va. Après, il y a DJ, DJ, tu vois.
Ouais, voilà.
Mon tonton qui balance, tu vois, des morceaux qui s'entraînent sur Spotify, c'est pas un DJ, tu vois. Mais...
Bah, attends, la sélection musicale est importante.
Non, c'est important aussi, bien
sûr. La curation, c'est de la curation.
Bien sûr, bien sûr. Bref, tout ça pour dire que...
Tu vas du coup nous balancer un son de DJ.
Et ben en fait, c'est vrai que je suis dans un délire en ce moment de passer de la musique électronique, tu vois, de mettre fort de la musique électronique. Je me suis fait une petite soirée techno il y a pas longtemps, je suis rentré à 6h du matin, j'étais en club, tu vois. Ça c'est, voilà, je suis dans ce délire-là, et donc j'ai pris un morceau dans ce délire-là, alors qu'en vrai, franchement, est accessible. C'est pas le truc le plus boum boum boum, mais j'aime bien... Ce morceau, ça fait longtemps que je l'écoute, et je sais pas pourquoi il me fait un truc, j'ai envie de danser sur ce morceau. Je vais même avancer un petit peu, je vais vous mettre un petit extrait. Vous voyez le délire ?
C'est un peu plus rapide que les 120 BPM. Ça.
Il y a tous les gimmicks, c'est le...
Complètement.
La montée, le machin.
Bien sûr. C'est pour le club, pour faire danser, tu vois.
Prendre de la drogue. Hein.
Ouais, les trucs un peu avec aussi des boucles un peu trans et tout, qui évoluent et tout.
Mais en fait, ce que j'aime surtout, c'est je sais pas comment on pourrait qualifier ça, mais je pense que c'est très lié à la house quand même. On va voir après en plus, notamment avec la basse. Et c'est assez mon délire. Même j'aime plein de trucs dans la musique électronique, mais ça, je kiffe. Et là, les gars.
C'est quoi, c'est Bonobo, non?
C'est pas du bonobo. C'est un peu plus que du bonobo quand même.
Ça ressemble un peu. C'est allemand.
C'est pas allemand, c'est français, monsieur. C'est français. Bref, vous voyez le délire. Ouais. Et ça, mais moi, ça me fait décoller, tu vois, genre de son. C'est très simple, en fait, fondamentalement. Mais ça me fait partir.
Jusqu'à la montée, là, quand tous les instruments arrivent.
Ouais, là, c'est le kiff. Bon, oui, quand t'es légèrement alcoolisé.
Ça marche mieux.
Ça marche encore mieux.
Ah, moi, j'adore les sons comme ça quand en soirée, que t'as envie de danser, juste pas te prendre la tête.
C'est exactement ça. Et donc là, c'est du Chami. Chami, qui est d'ailleurs dans la clique de DJ Snake à la base, qui est, je sais plus c'est quoi le nom de leur label, et qui a participé, enfin, qui a fait comme Snake d'ailleurs, qui est allé aux États-Unis et qui a une carrière maintenant aux États-Unis. Et donc le morceau s'appelle Adieu de Chami. J'hésitais entre plein de trucs, je voulais mettre aussi du Danger, 4h30 de Danger, qui est un peu plus vénère et pareil. Que j'aime. Bon, bref. Voilà mon son. Est-ce que vous avez. Quel est votre délire musical du moment et quels sont pour l'illustrer?
Allez, François.
Est-ce que je commence à lancer? Est-ce que tu vas en parler maintenant? Comment on procède? Dis-moi.
Ouais, fermez les yeux, détendez-vous. Laissez-vous partir.
Eh bah écoute, on commence à partir.
Vous connaissez. C'est pas très original.
Mais... Vas-y, tu peux parler par-dessus un peu la musique le temps que ça monte si tu veux.
Okay. Ben, là, vous êtes bien là. Vous venez de finir un épisode du Seigneur des Anneaux. Vous êtes encore.
Voilà. Ah, moi je suis bien là, moi je suis bien. Mon âme s'élève.
Enya, je trouve que. On a oublié à quel point c'était bien. Donc voilà.
Il faut
c'est
attendre
du moment parce que.
Faut attendre qu'elle soit reprise dans Stranger Things.
ça reviendra peut-être à la mode. Ouais. Est-ce qu'on s'écouterait pas un petit passage un peu plus. Enfin, juste on écoute. Allez. C'est beau quand même.
Il n'y a pas de drop. Hein.
Il n'y a pas de montée, il n'y a rien. Tout est là. Mais elle interprète seulement ou c'est elle qui compose aussi?
Elle fait tout.
Ok.
Ah ouais.
C'est un ange tombé du ciel.
Et pourquoi t'es dans ce délire alors en ce moment? Pourquoi? Qu'est-ce que?
Eh ben, alors ça c'est moins la joie, mais en ce moment j'ai des petits soucis de santé. Ouais. Et j'habite dans un pays où certaines médecines naturelles sont légales.
Très bien.
Ok, je vois.
Et j'essaye de me faire la playlist ultime.
Écoute, avis aux amateurs, vous avez un tips comme ça.
Donc
tu feras péter la playlist.
Du Enya pour fumer des sbars, ça.
J'ai l'impression d'être dans du liquide amniotique. C'est vraiment toute la discographie d'Enya. Et c'est un truc assez récurrent, quoi, des voix féminines un peu angéliques. Donc t'as effectivement Kate Bush, t'as Cocteau Twin, t'as Sade.
Ah oui, Sade.
En plus récent, t'as. Wise Blood, Fleetwood Mac, c'est un pattern comme ça et je trouve que Enya, c'est le pinacle du chill.
Est-ce que t'aurais une playlist Spotify? Ouais. Parce que ça m'intéresse moi les ambiances un peu éthérées comme ça là.
Alors j'ai une playlist Spotify mais qui est beaucoup plus dansante. Mais celle-là, je l'ai sur Apple Music, mais je te l'envoie.
Ah, ouais, je veux bien.
Je peux te la convertir sur Spotify si tu veux.
Yes.
Bon, parce allez. Pendant qu'on y est, Dave, qui demande des playlists à François.
Oui, oui, oui.
Quel est ton délire musical du moment et quel est le morceau que tu as choisi?
Moi, je suis dans un délire très, très chill.
Ouais.
Et très, très simple.
Ok.
Et je me rends compte que les morceaux surproduits, en fait, j'en veux plus trop.
Okay.
Moi, je suis juste dans un délire de. Tu vois, l'équivalent du piano-voix. Pour moi, c'est le sample voix. Donc là, c'est un morceau de West Side Gun qui est produit par Madlib. C'est peut-être pour ça que je l'ai kiffé.
C'est possible. Hein.
Mais en gros, il n'y a rien. Juste un sample qui boucle. Il n'y a même pas de section rythmique, il n'y a rien.
Allez, on s'écoute ça un peu. Ah.
Ligne de basse, elle est cool.
Ouais, mais en fait, c'est le sample, tu vois. Et tu vois, y a pas de batterie. Un rappeur sans batterie, c'est chelou, tu vois. Et là, en plus, c'est West Side Gun, donc c'est un mec de la clique Griselda de Buffalo. Et c'est un. Donc, il a une voix qui est un peu aiguë. Et il a énormément de gimmicks. et de Bach qui se met lui-même, machin, etc. Donc le morceau, il est bordélique, mais juste à cause de sa voix, parce que pour le reste, c'est juste un sample qui tourne à 25 BPM, tu vois. Et je suis vachement dans ces ambiances-là. Donc aussi, c'est... Je pense que je devrais t'enfiler, François, parce que je pense que ça aussi, quand t'allumes des carrément. Trucs qui se fument, à mon avis, t'es bien. Tu vois, ça te met dans des dispositions vaporeuses, tu vois.
Qu'est-ce qui t'a mis dans le délire? Pourquoi en ce moment particulièrement c'est comme tu le disais, c'est que t'en as marre des trucs surproduits.
Ouais, non, en fait, dans le rap, là, en ce moment, ça fait quelques temps maintenant qu'on est sur le cloud. Avant ça, on était sur le trap, la drill, etc. La trap, la drill, c'est des trucs avec, déjà, c'est un rythme assez rapide. C'est des morceaux à 140 BPM avec des charlets en stéréo dans tous les sens et des trucs avec du note repeat au 1/64e de note. Et en fait, c'est agressif de tous les côtés avec des sons que moi, je trouve très, très simples, voire simplistes. Et en fait, ça me rappelle l'époque du raga quand tous les artistes raga ils toastaient sur le même rythme et je fais plus la différence entre un morceau de trap et un autre, tu vois. Donc moi quand j'entends des mecs qui reprennent des samples comme à l'ancienne, des samples de soul, des trucs et ça Madlib le fait très bien, et qu'en fait ils les bouclent, tu vois, ils essayent même pas de le découper, ils le bouclent. Et en fait ça fait une belle boucle et ça tourne tranquille et ça te met vraiment dans une ambiance chill. Moi je suis vraiment dans ce délire en ce moment. Après ça changera peut-être, mais
très bien. Sam, c'est quoi ton délire musical du moment?
Bah du coup j'ai un petit peu réfléchi du coup entre temps.
Ok.
Il a changé.
Ouais, en fait,
voilà. On peut choisir le morceau à tout moment.
Hein, ouais, mais en fait moi il y a pas vraiment de délire musical et on va pas rentrer dans un autre sujet parce qu'on voilà on est en train de terminer en musique justement. Moi justement j'essaie de pas j'ai pas envie d'être dans un délire et en fait ayant été comme je te disais un peu ingé son, technicien son tout ça et c'est un peu aliéner ma vision de la musique et en fait j'ai même parfois été un peu dégoûté de la musique. Du coup j'essaie beaucoup de prendre la musique comme un consommateur. Et du coup j'ai un morceau qui va illustrer ça, c'est justement qui me fait justement kiffer en tant que consommateur parce que j'essaie de sentir l'émotion du morceau. Et en fait c'est François qui m'a fait penser qu'en fait je saigne ce morceau, tu sais, quand je te disais sur demain, je vais dire, mais putain, pourquoi j'ai pas pensé à ce son-là?
Et pas, c'est
merci
pas demain, c'est ce soir.
Voilà. En fait, c'est un son de Bonobo que je saigne à fond en ce moment qui s'appelle Shadows.
Bonobo. Mais j'ai tellement. Avec Jordan Rakey, c'est ça?
Ouais.
Ok.
Et tu vois, c'est très simple, ça sonne trop bien. Et en fait, t'as un petit refrain tout mignon qui est bien posé dans la chanson et quand il arrive t'es comme ça, moi après tu danses comme ça. Par exemple je suis parti en vacances, je le saignais, j'avais mes potes, je faisais un peu DJ et tout, et tu sais hop je faisais l'ambiance, puis d'un coup je faisais hop le petit bonobo, puis après on s'en va, on revient, puis dans la soirée après tout le monde un peu bourré, je fais ça fait longtemps, je vais la placer, ils vont pas capter que je l'ai remise, tu vois.
On s'écoute un petit peu de ce que ça donne.
Vas-y. Ah, y a une petite intro un peu douce.
Je pense qu'il faut avancer un petit peu. Moi c'est ma cam Bonobo de toute façon.
Et c'est un peu dans le délire un peu DJ, Bonobo il est fort sur ça.
Alors là
je vais être au Primavera.
Ok.
C'était... Pardon.
Non ouais tu l'avais vu en live.
C'était ouf.
Ah ouais.
C'était incroyable.
Je m'étonne pas. Mais l'album Black Sands qui est un
incroyable.
Peu sur YouTube.
Ouais.
Tellement trotté cet album. Et en plus, c'est le genre d'album qui, on le voit bien autour de cette table, qui réunit tout le monde. Je crois qu'il y a eu un certain succès commercial auprès du grand public. En même temps, les musiciens trouvent ça cool aussi, j'ai l'impression.
Ouais, parce que lui, puis en plus, il a fait des délires. Tiens, c'est... En fait, c'est marrant, il y a une espèce de côté appel à l'aide dans ce morceau vachement émotif. Et ce truc, ils ont écrit quelques lignes de couplets et tout. Et tu vois, je trouve que... Ce qui est cool, c'est qu'en fait, tu peux arriver à écrire des choses simples qui parlent aux gens, qui font retransmettre un état d'esprit, tu vois. Et voilà, moi, mon délire du moment, c'est ça, c'est d'essayer de chercher plus l'émotion dans la musique que justement sortir. Ouais, voilà, la simplicité, l'émotion et le message. Et puis c'est cool et tu fais du bien. Et les gens, ils écoutent ta musique et ça leur fait du bien. Et du coup, en fait, c'est pour ça qu'on devrait faire uniquement de la musique.
Je milite aussi pour cette vision de la musique.
Absolument.
Ouais, super bon message. Étape, DLT, dans le tempo, milite pour pas se prendre la tête avec la musique. Kiffer, c'est tout.
C'est une belle conclusion.
Ah, c'est beau.
On se retrouve pour le prochain épisode. Est-ce qu'il y a des gens à remercier? Et est-ce qu'on peut pas avoir Flavien, Jean-Michel qui étaient.
Allez les
venez,
gars.
Venez les gars, venez dire au revoir avec nous. On fait un coucou aussi à Ellie. Ellie, t'es pas avec nous ce soir malheureusement, mais on sait que t'es aussi dans le projet, t'es important. Merci mec.
Yes. Bisous, Ellie.
C'est vrai. Flav, merci de nous aider pour cette émission aussi, Flav. Et puis on se retrouve dans 2 semaines avec un nouvel invité d'Az.
On espère.
Bah ouais. Ça devrait se faire quand même. Ciao tout le monde.
Yes.